Mes chers collègues, veuillez reprendre vos places. Nous allons entamer maintenant une audition publique de grand intérêt auquel peuvent assister l'ONG dont nous avons accepté la requête ce matin, M. José Pedro Ramos Assunção. Il est là. Et avant de commencer cette audition publique sur le don anonyme de sperme, permettez-vous trouver un équilibre entre les droits des parents, des donneurs et des enfants. J'aimerais accueillir très chaleureusement nos experts qui ont bien voulu nous rejoindre aujourd'hui et venir nous retrouver ici à Lisbonne pour nous faire part de leur opinion. Nous essayons en ce moment d'établir une connexion téléphonique avec un donneur anonyme qui se trouve très loin d'ici. Et nous espérons donc pouvoir l'appeler par téléphone pour participer à cette audition. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à Madame Carla Maria Pinho Rodrigues. Elle est présidente du Conseil national de la procréation médicalement assistée du Portugal. À Monsieur Miguel Oliveira da Silva, membre du comité de bioéthique du Conseil de l'Europe. Et il est portugais également. Ensuite, Madame Joana Rose et M. Christophe Massel, qui sont des personnes conçues par donneurs. Et on verra si je peux souhaiter la bienvenue à un donneur anonyme qui est français à l'origine. Mais avant de commencer, je voudrais donner la parole à Madame Petra de Sutter pour une brève introduction. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je serai très succincte car l'exposé des motifs a déjà été discuté et déclassifié. Nous discutons ici de l'anonymat qui est traité de façon très différente dans différents pays selon leur législation. Nous savons que dans les pays du nord de l'Europe, l'anonymat n'existe plus. Dans la plupart des pays scandinaves, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, mais dans d'autres pays, c'est encore la règle. Donc, nous voulons envisager cette question sous l'angle des droits humains. Et comme vous l'aurez sans doute vu, le problème avec la question des droits humains, c'est qu'on doit les mettre en équilibre avec d'autres droits humains. Il y a le droit du donneur, des parents et de l'enfant. Donc, comment aboutir à un équilibre entre tous ces droits? Et nous avons rencontré certains problèmes qui sont liés à l'anonymat des donneurs. C'est des questions relevant de la santé publique, bien entendu, des questions éthiques, le droit qu'ont les enfants à connaître leur origine, et puis des arguments plus pratiques qui relèvent des modernes techniques de génétique. Donc, comment traiter de tout cela? Comment aboutir à un texte qui soit accepté dans cette commission? C'est pourquoi nous avons invité les experts pour nous éclairer et pour nous donner leur opinion sur ce sujet. Et peut-être à la fin du débat, Monsieur le Président, reprendrai-je la parole, mais je pense qu'il convient d'entendre tout d'abord nos invités. Merci de cette très bonne proposition. Nous allons la suivre séance tenante et je demande donc à Madame Carla Rodrigues de prendre la parole. Monsieur Stéphane Sénac, président de la Commission des affaires sociales de la santé et du développement durable de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Monsieur le député Louis Ramouche, vice-président de cette commission, mon cher ami, merci de m'avoir invité. Madame la députée Petra de Sutter, auteure du rapport. Mesdames et messieurs les députés, chers invités, Je voudrais tout d'abord féliciter la Commission des affaires sociales de la santé et du développement durable de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de l'attention qu'elle accorde à ce thème si délicat et d'une si grande actualité. Je félicite également Madame Petra de Sutter qui a s'est engagé avec grand soin dans l'élaboration d'un rapport dont on attend qu'il soit utile et équilibré. Choisir le Portugal pour cette audition publique est un choix particulièrement heureux parce qu'en ce moment précis, nous connaissons un processus complexe et difficile. Il s'agit du changement radical de paradigme entre l'anonymat presque absolu de l'identité portant sur l'identité des donneurs de gamètes qui étaient encore en vigueur il y a 5 mois vers un régime d'absence d'anonymat dont on peut prévoir que la législation portugaise l'adoptera. Le régime prévu par la loi portugaise jusqu'au 24 avril de cette année était un régime d'anonymat mitigé. Le numéro 1 de l'article 15 de la loi sur la protection médicalement assistée prévoyait l'obligation de secret absolu. Le numéro 2 dérogeait à cette obligation en établissant qu'une personne née à la suite de l'utilisation de techniques de procréation médicalement assistée pouvait accéder à des informations de nature génétique qui la concernant auprès des services de santé. De la même manière, on permettait à ces personnes de garantir l'inexistence d'empêchement légal à un projet de mariage par le biais de la consultation du Conseil national de la PME. Dans les deux cas, la loi excluait simplement la connaissance de l'identité du donneur, sauf dans les termes de l'alinéa numéro 3, c'est-à-dire si celui-là l'autorisait ou si en dépense de l'absence de ce consentement, l'intéressé démontrait conformément à l'alinéa numéro 4 de l'article 15 des raisons reconnues par une sentence rendue par la justice. Donc, l'obligation de secret absolu faisait l'objet d'une dérogation par rapport à certaines entités et pour certaines informations, notamment lorsque l'intéressé, permettant à l'intéressé d'y avoir accès, et accès également à l'identité du donneur. Le 24 avril de 2018, le tribunal constitutionnel, qui est le tribunal supérieur qui garantit la conformité des lois avec les principes de la Constitution de la République, a déclaré dans son arrêt 225 de 2018 l'inconstitutionnalité des normes de l'alinéa numéro 1 de l'article 15 en ce qui concerne l'obligation de secret absolu pour ce qui est des personnes nées d'une procréation médicalement assistée en ayant recours à la donnée de gamètes ou d'embryons, y compris dans les situations de gestation de substitution sur le recours à ces processus ou à la gestation de substitution et sur l'identité des participants dans le cas des donneurs. Ceci par violation des droits à l'identité personnelle et au développement de la personnalité de ces personnes en conséquence d'une restriction inutile de ces droits. L'arrêt a donc voulu établir le régime de l'anonymat, léser la dignité de la personne humaine, le droit à l'identité personnelle, l'épanouissement de la personnalité et l'identité génétique. On a conclu que l'anonymat ne mettait pas en cause le principe de la dignité de la personne humaine, mais qu'il mettait en cause le droit à l'identité personnelle et à l'épanouissement de la personnalité. En ce qui concerne la transgression du droit à l'identité personnelle, la Cour constitutionnelle est allée à l'encontre de la jurisprudence antérieure de cette même Cour, dans la mesure où sur cette même question, lors de l'arrêt 101 de 2009, il a donné davantage de poids à la paix familiale protégée par l'anonymat qu'au droit à l'identité personnelle et à l'épanouissement de la personnalité privilégiée dans ce nouvel arrêt. Ceci étant, au-delà de la nécessité d'aboutir à un équilibre entre les droits des parents, des donneurs et des personnes nées en ayant recours, du fait du recours à des gamètes donnés, il est impérieux de promouvoir cet équilibre dans cette phase de transition du régime d'anonymat vers le régime d'absence d'anonymat. Avant avril 2018, tous les donneurs de gamètes ont donné de façon volontaire, généreuse, altruiste et gratuite en ayant la certitude de la confidentialité. Avant avril 2018, tous les pères et mères qui ont recouru à un traitement de PMA avec la donation de gamètes l'ont fait en étant sûr que l'enfant né serait leur enfant et que la paix, l'intimité, l'intimité de leur vie familiale ne serait perturbée. Donneurs et pères ont agi en étayant leur conviction sur la loi et ensuite, après 2009, dans le renforcement de la constitutionnalité de l'anonymat. Avec la publication de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, le cours normal de la PMA avec donation de gamètes a été fortement bouleversé et avec la suspension de traitement en cours des gamètes et des embryons qui avaient été conservés par cryogénésie étaient en sérieux risque d'être détruits du fait que leur donneur ne voulait pas que les traitements soient poursuivis. Il faut donc trouver une solution qui soit un juste équilibre, d'une part pour des questions de sérieux, pour des questions de sûreté, de sécurité juridique, pour éviter le manque de la rupture, la perte de confiance pour ceux qui ont donné et de ceux qui ont accepté de se soumettre à un traitement de PMA avec don de gamètes. C'est une justice élémentaire que d'établir une période transitoire au cours de laquelle les donneurs qui l'ont fait sur la base de l'anonymat et la possibilité d'accepter ou de refuser que la confidentialité soit levée. Quant aux donneurs dont le matériel génétique n'a pas encore été utilisé, il faut que leur soit permis la possibilité d'utiliser ou non ce matériel, sachant que le caractère confidentiel de ce don n'existe plus. C'est donc entre les mains des députés de ce Parlement que de légiférer et de garantir qu'aucun gamète ne sera perdu et qu'aucun embryon ne sera détruit au cours de ce processus. J'espère que cette description de la situation d'indéfinition et d'incertitude que l'on vit en ce moment au Portugal du fait de ce changement de paradigme, à savoir passer de l'anonymat à l'absence d'anonymat, soit pour vous tous une raison de réflexion, un motif de pondération afin que les droits de tout un chacun soient préservés. Ce qui est en cause, ce sont des droits fondamentaux consacrés par la Constitution, les droits de toutes les parties prenantes. D'une part, le droit de la personne née grâce au recours à des techniques de PMA avec don de gamètes, le droit de cette personne à son identité personnelle, au développement de sa personnalité. Et d'autre part, les droits des parents à constituer une famille, à préserver l'intimité de leur vie privée et familiale. Et par ailleurs encore, le droit des donneurs à leur autodétermination, à leur vie privée et également à la préservation de l'intimité de leur vie de famille. Il n'y a pas de droit absolu des uns sur les autres. Il n'y a pas différents échelons de dignité humaine. Il n'y a pas hiérarchie entre les personnes. Il y a des hommes et des femmes stériles qui souhaitent avoir une famille et qui désirent et aiment profondément leur enfant avant même de l'avoir conçu. Il y a des hommes et des femmes qui donnent une partie d'eux-mêmes de façon généreuse, altruiste et solidaire. Et il y a des enfants qui naissent de cet amour et de cette générosité. Les uns n'existent pas sans les autres. C'est pourquoi les droits des uns ne doivent pas se superposer, s'imposer par rapport aux droits des autres. Mais tous doivent cohabiter dans l'équilibre et en harmonie. Merci beaucoup.
Thank you so much for your...
Merci beaucoup de cette allocution aussi claire et j'espère que les députés portugais sauront amener vos questions à la plénière. Deux sont présents, je crois, en ce moment. Miguel Oliveira da Silva, puis-je vous donner la parole? Et vous parlez également de la tribune.
Oh, thank you so much. No, it's okay. You want to try it, please? Yeah.
Okay, thank you so much.
Merci beaucoup, merci Monsieur le Président, merci chère Petra, mes chers collègues, chers députés, merci. J'aimerais me présenter. Je suis gynécologue. Je travaille dans un hôpital à Lisbonne et j'enseigne l'éthique médicale à la faculté de médecine à Lisbonne et je suis le représentant portugais au DH Bio à Strasbourg. Je n'ai ici aucun conflit d'intérêts. Je ne travaille dans aucune clinique privée pratiquant la PMA. Bien entendu, je connais mes collègues, mais je ne travaille pas dans ces cliniques. Donc, je n'ai aucun intérêt personnel ou professionnel dans ces cliniques et j'exprime ma propre opinion et non pas celle du DH Bio. Ici, que les pays de l'Est m'excusent, voilà la carte du Portugal depuis, pour ce qui est du don anonyme de gamètes de 2018 et tout le nord de l'Europe a supprimé l'anonymat, sauf le Danemark. Sauf le Danemark, donc. Le Danemark est une exception. C'est l'un des paradis de l'exportation de gamètes avec différents prix selon que cela soit anonyme ou non. Et, un don anonyme est meilleur marché. Et le Portugal lui-même importe des gamètes d'Espagne et du Danemark.
Whatever will be the political decisions.
Quelle que soit la décision politique, quel que soit l'argumentaire éthique, on voit que depuis la décision d'avril 2018 au Portugal, la Cour constitutionnelle, en effet, a décidé que les personnes nées de dons de gamètes ont le droit de connaître leur identité génétique. Non pas pour des questions juridiques ou légales, mais simplement pour des questions émotionnelles. Et ces personnes ont le droit de savoir qui sont les donneurs et qui le cas échéant sont leurs demi-sœurs ou demi-frères et combien sont-ils et où vivent-ils? La Cour constitutionnelle a décidé que le droit de ces personnes, enfants ou adolescents, est plus important que le droit des nouveaux donneurs. Je dis bien des nouveaux donneurs qui ne sont plus anonymes. Et plus important encore que la paix familiale telle qu'on l'avait définie il y a 9 ans. cette décision, donc 9 ans se sont écoulés entre ces deux décisions, et 9 ans pour ce qui est de la technologie génétique, c'est longtemps. Je voudrais donc résumer que selon la Cour constitutionnelle portugaise, il y a une hiérarchie de valeurs et il y a une hiérarchie de droits. Et selon la Cour, et je suis personnellement tout à fait d'accord, le droit des enfants ou des adolescents conçus par don de gamètes sont plus importants que les droits des nouveaux donneurs ou des nouveaux parents. Mais le terme du don anonyme de gamètes avait été annoncé il y a quelques années de cela, et c'est inévitable, et cela pour des raisons pratiques et peut-être pas forcément pour des questions politiques ou éthiques comme je le souhaiterais, mais surtout pour des raisons pratiques, et je me réfère à cet article sur la question des tests génétiques à la maison, donc grâce à Internet, va mettre un terme à l'anonymat des donneurs. Plus de 3 millions d'adolescents ont utilisé ces tests génétiques pour savoir qui sont leurs géniteurs. Ceci signifie que le don se fasse dans un pays où il y a anonymat ou non, les gens devraient savoir ou on devrait savoir que l'anonymat n'est pas garanti et que l'on peut remonter jusqu'à eux par le biais de l'ADN. Les adolescents chez eux, avec des tests génétiques qu'ils peuvent acquérir par le biais de l'Internet, et s'ils ont par exemple un prélèvement de salive ou de l'épithélium de leur bouche ou de leur peau, de leurs frères, de leurs sœurs également, ils peuvent savoir immédiatement ils ont les mêmes parents ou pas. Donc, les enfants conçus par don, qui n'ont pas été informés de ce statut, peuvent l'apprendre de la sorte. Et il y a différents sites qui permettent d'obtenir ces tests. Donc, pour des questions pratiques, ces tests génétiques mettront un terme à l'anonymat d'ici 2 ou 3 ans. Il n'y a aucun doute à cela. Donc, ne serait-ce que pour ces raisons-là et pas pour des raisons politiques ou éthiques, l'anonymat arriverait à son terme. Ponce Pilate a demandé à Jésus de dire la vérité. Dites la vérité. Et donc, on devrait encourager la révélation de cet usage. Une omission délibérée est-elle un mensonge? Je pense que oui. Donc, quel est le pourcentage de parents au Portugal, par exemple, ou dans les pays européens qui révèlent à leurs enfants leur origine génétique? Je ne le sais pas, car aucune étude, pour autant que je le sache, n'a été faite au Portugal. C'est-à-dire que personne ne s'est adressé à l'enfant, à l'adolescent ou au jeune adulte en lui demandant « Voudriez-vous connaître vos parents génétiques? Voudrais-tu savoir si tu as des demi-frères ou des demi-sœurs ?» Pourquoi n'avons-nous jamais fait une telle étude au Portugal? Pourquoi pas? Où sont les psychologues, les sociologues? Est-ce que c'est une telle étude ne les intéresse pas? C'est assez singulier. Alors, quand le dire? Comment le dire? Aussitôt que possible. Et il y a un nombre d'études entre 2009 et 2018 Donc, quand, lorsque quelqu'un dit la Cour constitutionnelle a dit qu'il y avait levé de l'anonymat en 2018, ceci est sur la base d'études qui n'ont pas été faites au Portugal. Et toutes ces études par ces études, on avait demandé à tous les enfants concernés, voulez-vous connaître vos parents génétiques? Et la plupart, 90%, ont dit oui, au moins je veux avoir le droit de le savoir. Voudrais-tu savoir si tu as des demi-frères ou des demi-sœurs? Je voudrais au moins avoir le droit de le savoir. Donc toutes ces études vont dans le même sens. Donc toutes les parties concernées doivent savoir que l'anonymat n'existera plus. Selon la Cour constitutionnelle, bien entendu, la fin de l'anonymat des donneurs ne signifie pas que les parents ont le droit de choisir. En France, on en est aux états généraux de bioéthique, et peut-être que les choses changeront dans les lois sur la bioéthique sous la houlette du président Emmanuel Macron. Mais selon débat en France, si l'anonymat est levé, ce qui ne dure ne prendra pas de temps, si les enfants veulent connaître leurs parents, est-ce que le couple devrait le savoir également? C'est-à-dire que le droit de l'enfant n'implique pas forcément le droit des parents. Je voudrais rapidement terminer ma présentation. Ce soir, pour ce qui est du don de gamètes, nous avons des consultation de médecine génétique et de PMA. Et dans le système de santé nationale portugais, les banques de gamètes sont extrêmement petites et la plupart existent dans les cliniques privées. C'est une très grosse affaire. Je n'ai rien contre les affaires pourvu qu'elles soient éthiques et transparentes. Depuis le mois d'avril, contrairement aux prévisions catastrophiques, on voit que de nouveaux donneurs se rendent dans des cliniques privées. Et peut-être qu'ils viennent d'horizons socio-économiques différents. Et certains des anciens donneurs acceptent de révéler leur identité. Donc, encore une fois, les prévisions catastrophiques ne se sont pas forcément réalisées. Nous n'avons pas abouti à une perte de matériel biologique. Donc, que faire par rapport au matériel biologique qui a déjà été prélevé? Je suis tout à fait d'accord avec une phase de transition. Le Parlement portugais peut établir une nouvelle loi. Le ministre peut faire un décret. Qui est doté de cette autorité? Bien entendu, nous devrions contacter les donneurs si les bases de données de PMA fonctionnent. Certaines peut être perdu. De nouveaux donneurs se présentent. Le marché fonctionne. Et les affaires continuent, c'est certain. Pas de panique à bord. Et jusqu'à ce que la nouvelle loi soit promulguée, ce ne sera quand le Parlement le voudra, il n'y a pas de hâte, mais ce pourrait être déjà en octobre. Je pense qu'il faudrait mener un débat très participé, vaste, informé, de bas vers le haut et sans la pression des médias. Et j'aimerais par exemple que que les autorités qui régulent la PMA au Portugal prennent l'initiative de convoquer des conférences, des symposiums où diverses opinions pourraient être exprimées. J'aimerais également que déclarations de conflits d'intérêts soient publiques et obligatoires. Je n'accepte pas et je ne suis pas d'accord avec le fait que au Portugal, cette autorité soit égale, que dans cette autorité siègent des personnes qui ont de très grandes cliniques privées. Je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas que dans cette autorité travaille également un député. Je crois que c'est un conflit d'intérêts et cela doit être résolu ou du moins débattu. Dernière tranche, et cette transition devrait être une occasion à saisir pour mieux savoir qui sont les nouveaux donneurs, quel est leur profil socio-économique, étant donné que nous ne connaissons le profil socio-économique des anciens donneurs. Et on parle d'un véritable altruisme. Et moi, j'ai des doutes. Lorsqu'une femme reçoit au Portugal 843 euros de compensation et elle peut le recevoir trois fois. Et lorsque cette somme a été augmentée 33% entre 2013 et 2018, aucun autre salaire n'a été augmenté de la sorte de 2015 à 2016. Pardon. Je me demande si l'on peut véritablement parler d'altruisme. Et bien entendu, 843 euros, c'est rien du tout. Cela dépend. Si vous êtes riche, ce n'est rien du tout. Si vous êtes très pauvre, c'est beaucoup d'argent. Et nous ne savons pas quels sont les profils socio-économiques des anciens donneurs. Donc, pour moi, on ne peut pas nécessairement parler de véritable altruisme. Donc, nous devons peut-être repenser à la somme qui est versée aux donneurs. Et combien de fois un donneur peut-il donner des gamètes, c'est-à-dire combien de demi-frères ou demi-sœurs peuvent avoir un citoyen portugais. Et j'aimerais que l'on semble que on ait entre tous les pays du Conseil de l'Europe une très bonne base de données pour éviter le problème que nous connaissons tous et sur lequel on a déjà beaucoup écrit. Merci beaucoup.
Thank you very much.
Merci à vous. Évidemment que vous avez beaucoup, beaucoup de pain sur la planche, si je puis permettre. Jonas, Christophe, souhaitez-vous parler ensemble ou l'un après l'autre? Jonas, vous avez la parole, s'il vous plaît.
I think I might get more. That's a good idea while I'm waiting.
Hello, hello.
Maybe you Sorry? Somebody's taking you, so we have a problem. Perhaps Mr. Maslow starts while we...
Yes, because I've got a presentation.
Yes.
Yeah.
We need to stick, Mr. Maslow, you
take. Nous avons donc un petit problème technique. Je nous a demandé à Monsieur Maslow de prendre la parole. Apparemment.
Les parlementaires. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok. Je me trouve ici devant vous pour parler d'un sujet qui est compliqué. J'ai été conçu moi-même en 86 grâce à un don de sperme anonyme et en 2008 j'ai décidé de créer une association pour les personnes qui étaient dans ma situation, c'est-à-dire qui avaient été conçues grâce à un don de spermatozoïdes, un don d'ovocytes ou un don de gamètes. Il y a une chose qui n'a pas été, dite et qui me semble être importante avant d'aborder le fond de ce débat, c'est-à-dire qu'on parle de la question de l'anonymat, mais pour parler de la question de l'anonymat pour une personne issue d'un don de gamètes, ça présuppose qu'on ait été informé de son mode de conception. Or, par exemple, si je prends le cas français, depuis le début des années 70, on estime qu'environ 70 000 enfants sont issus d'un don de gamètes. Sur ces 70 000 enfants, vous en avez une poignée dans le débat public, dont je fais partie, c'est-à-dire qu'on vient témoigner soit pour, soit contre ce principe, mais on ignore combien d'enfants ont été informés de leur mode de conception. Donc je pense que le point de départ, c'est d'abord de faire de la sensibilisation sur le mode de conception pour que les personnes issues d'un don de gamètes puissent se positionner sur la question de l'anonymat. Est-ce que la levée de l'anonymat dans d'autres pays de l'Union européenne découle d'une large consultation des personnes issues d'un don de gamètes? Ou est-ce qu'au contraire, c'est davantage le produit d'une forme de lobbying de la part de diverses personnes qui ont souhaité justement revenir sur ce principe de l'anonymat, dont on sait aussi qu'il va bouleverser, chez nous en France, le triptyque volontariat, gratuité et anonymat. En tant que personne issue d'un don de gamètes, ce qui me rassure, c'est de savoir qu'à l'époque, mon donneur a donné de façon complètement volontaire, c'est-à-dire que personne ne l'a poussé à faire ce geste, qu'il a donné justement de manière complètement désintéressée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transaction financière. Et quand je vois par exemple la banque de sperme danoise, le Cryos International, où on peut aller regarder justement le profil des donneurs, choisir un donneur anonyme, non anonyme, en gros choisir un donneur sur catalogue, personnellement c'est une perspective qui pour moi est extrêmement angoissante. Je suis pleinement rassuré d'avoir justement été conçu grâce à un donneur qui n'a pas été rémunéré. Ensuite, ce principe de l'anonymat, je crois qu'on ne peut pas partir de l'idée que nécessairement il pose des difficultés d'ordre émotionnel, comme cela a été dit ici, chez les personnes issues d'un don de gamètes, pour la simple et bonne raison que quand vous êtes informé de votre mode de conception, vous ne partez pas en croisade directement contre ce principe de l'anonymat. Il y a plusieurs autres questions qui vous viennent à l'idée. Pourquoi est-ce que mes parents ont eu recours à cette technique? Quelle sera l'incidence de cette technique sur mon développement? Personnellement, la question de l'anonymat, elle est arrivée beaucoup plus tard chez moi. Et c'est ensuite, quand j'ai commencé à témoigner, chose qui n'a pas été non plus évidente, puisque si je vous dis aujourd'hui que j'ai été conçu grâce à un don de sperme, vous en déduisez que mon père, le seul et l'unique, est stérile ou infertile. Donc vous voyez que cette parole, elle est déjà compliquée, puisque vous révélez un secret de famille. Dans l'association que je préside, vous avez plusieurs centaines d'enfants qui ont été donc issus de ces techniques d'assistance médicale à la procréation. Et nous avons remarqué une minorité de personnes qui souhaitaient une levée de cet anonymat. C'est-à-dire que ce qu'on a pu observer, c'est que Se poser des questions sur son mode de conception, c'est une chose, mais réduire ces questionnements à la question de l'anonymat, c'en est une autre. Qu'est-ce qui vous dit que si vous vous posez des questions, ce qui est complètement humain, vos difficultés émotionnelles, relationnelles, découlent nécessairement de la question de l'anonymat? Après tout, quand on apprend son mode de conception, je ne sais pas, à l'adolescence, on va se poser beaucoup de questions sur son orientation professionnelle. Et peut-être que finalement, il sera pratique pour nous de se dire, si je connaissais le donneur, à ce moment-là, je pourrais avoir des indications. Si c'était un médecin, que j'ai cette information-là, je pourrais me dire, je vais me tourner vers des études de médecine. Je suis... Peut-être que j'ai un discours qui est minoritaire au sein de cette assemblée, mais je crois que plus largement, le débat qu'on a aujourd'hui renseigne aussi sur la société dans laquelle on veut vivre. Est-ce que on veut une société dans laquelle on a le tout génétique, c'est-à-dire faire primer les libertés individuelles aussi sur, je pense, une forme d'intérêt général? En France, les banques de sperme relèvent encore du secteur public non marchand. Derrière, vous avez une pression du lobbying, justement, pour faire exploser ce monopole. C'est-à-dire qu'il y aura une récupération par le secteur privé des activités d'assistance médicale à la procréation avec tiers d'honneur. Pour être honnête avec vous, je suis très content d'être un enfant qui n'a pas la possibilité aujourd'hui d'avoir des informations sur son donneur. J'ai appris à me construire avec ce principe. Je n'ai qu'un seul père et je ne parlerai pas ici de père biologique. Un père biologique, ça n'existe pas, puisque si vous parlez de père, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une fonction parentale. Donc, un père biologique n'existe pas, c'est un donneur. On ne peut pas non plus parler de demi-frère et de demi-sœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simplement d'autres personnes issues de ce donneur qui partagent une partie de notre patrimoine génétique. Mon frère, qui a 2 ans de moins que moi, est issu d'un autre donneur. Un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit « Pourquoi est-ce que tu ne rejoins pas l'association ? Et qu'est-ce que tu penses de la question de l'anonymat ?» Et il m'a dit « Je ne sais pas. Papa, c'est papa. » Et finalement, il avait tout résumé dans cette phrase. C'est-à-dire que, pour lui, la question de la transmission des valeurs, l'éducation, la sécurité affective et matérielle qu'un père ou qu'une mère peut apporter à son enfant est plus importante que ses origines génétiques. Quand on parle d'origine génétique, vaste question aussi. Je crois qu'on s'inscrit tous dans une lignée qui nous dépasse, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs générations avant nous, il y en aura plusieurs aussi après nous. On ne connaît pas toutes nos origines génétiques. Les tests génétiques, ça ne concerne pas uniquement les personnes issues d'un don de gamètes. Vous, personne conçue à l'ancienne, entre guillemets, vous pouvez très bien avoir recours à des tests génétiques. Le problème aussi que j'ai au regard de ces tests génétiques, c'est que, admettons qu'aujourd'hui je veuille contourner le système français. J'achète donc ce test génétique, je regarde dans une base de données, rien ne me dit que mon donneur est toujours en vie. Première chose, je ne sais pas, peut-être que ce donneur est mort. Je n'en sais strictement rien. Est-ce que ce donneur lui-même a fait cette démarche de son côté ? Pourquoi est-ce qu'il ferait cette démarche ? Et ensuite, quelles conséquences ? Une fois que j'aurai réussi à identifier ce donneur, comment est-ce que j'entre en contact avec lui ? Peut-être qu'il y a finalement une troisième voie qu'on n'a pas vraiment envisagée entre la levée de l'anonymat total et la préservation de l'anonymat. Cette troisième voie, on en a discuté dans l'association, et ce serait l'accès à des données dites non identifiantes. C'est-à-dire que c'est des informations qui ne permettraient pas d'entrer directement en contact avec le donneur, mais ce seraient des éléments qui nous permettraient de savoir quelques petites choses sur ce donneur. ses motivations éventuellement, son âge, peut-être effectivement le nombre d'enfants qu'il a eu, on va dire, dans sa famille, mais pas forcément les demi-frères et demi-sœurs génétiques, sa catégorie socio-professionnelle. Mais là encore, si on part sur cette troisième fois, il va falloir se poser la question de savoir quelles données est-ce qu'on va pouvoir communiquer et quelle est l'importance de ces données pour les personnes issues d'un don de gamètes. Est-ce qu'on va pouvoir les hiérarchiser? Et si on fait une liste limitative, pourquoi est-ce qu'on va s'arrêter, par exemple, à 10 critères et pas à 15 ou pas à 7? Donc, je crois, en tout cas, je vous parle en tant que personne conçue par don en France qui suis attachée à ce triptyque volontariat, gratuité et anonymat. Je peux vous dire qu'au regard des personnes qui sont membres de l'association des enfants du don que je préside, que vous n'avez pas une majorité d'enfants qui sont en détresse émotionnelle du fait du principe de l'anonymat. C'est des personnes qui sont venues dans l'association parce qu'elles se posaient des questions sur ce mode de conception singulier. La question de l'anonymat, c'est à chacun de se positionner dessus. J'estime que sur 70 000 naissances depuis les années 70 en France, on a encore trop peu de recul pour essayer de juger ce principe de l'anonymat. Ce qui embête, finalement, les personnes qui sont les plus embêtées par le principe de l'anonymat, c'est probablement le secteur privé lucratif qui a envie de récupérer une part de ce marché qui appartient pour le moment au secteur public. Donc, je pense qu'il ne faut pas prendre en otage la parole des personnes issues d'un don de gamètes. Il est important de les écouter et de ne pas se précipiter. Moi, je n'ai aucune... Ça ne me dérange pas que la France, j'allais dire, soit un îlot préservé, parce que si on estime qu'en France, l'anonymat n'est pas un problème... C'est vrai, certaines personnes vont contourner le système et partir à l'étranger. Mais ça se passe déjà dans d'autres pays, avec les banques de sperme la banque de sperme notamment qui se trouve au Danemark, c'est déjà possible. Et nous avons des personnes dans l'association qui ont été issues de spermatozoïdes qui viennent directement du Danemark, parce que les parents souhaitaient avoir un donneur identifié. Donc il y aura toujours un moyen de contourner cette législation. Et les parents qui ne souhaitent pas avoir un enfant qui puisse remonter jusqu'à son donneur pourront très bien, si les banques de sperme proposent ce service-là, choisir un donneur anonyme ou ne pas dire à leur enfant comment est-ce qu'il a été conçu. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci de votre attention.
Thank you so very much.
Merci beaucoup, Monsieur Mazel. Alors, Madame Rose, vous avez la parole. Voilà, je vais voir si ça marche. Très bien. Bonjour. Merci de me donner la possibilité de prendre la parole. La raison qui explique ma présence ici et pourquoi j'ai fait mon doctorat sur ce sujet, c'est la frustration. Quand j'avais... la vingtaine, j'étais frustrée par le fait que j'étais simplement conçue. Beaucoup d'experts parlaient de nous sans nous. Ainsi, je me suis lancée dans ce doctorat et je m'appelle Dr. Rose. Et en fait, il y a donc ce cas référence. C'est vrai que si j'avais plus de temps, je vous raconterais volontiers le sujet de mon doctorat, mais j'ai pris donc les situations dans l'histoire où l'on niait donc connaissance de l'identité véritable, et c'était donc dû à une politique gouvernementale. Songez à n'importe quel groupe de société qui, dans notre histoire, a systématiquement vu le refus de connaître ou d'accéder à son identité. Et à chaque fois, il y a donc un nombre de personnes qui sont considérablement angoissées et souffrent de cette situation. Alors, je serais plutôt en porte-à-faux avec la personne qui a parlé avant moi, personne conçue par donneur, on a même des autocollants, La conception génétique, c'est la même chose que la conception par donateur. Il y a même des chaînes YouTube où on entend justement cette voix. Donc, nous ne sommes pas un petit groupe. Mais même si nous l'étions, comme les femmes qui revendiquaient le droit de vote, il y avait quand même beaucoup d'autres femmes qui ne voulaient pas ce droit de vote. En fait, alors c'est quoi le pourcentage qu'il faut si, voilà... on ressent de l'angoisse par rapport à cette ignorance de savoir d'où l'on vient. Et ça touche vraiment au cœur de votre prise de décision. Donc, combien de personnes doivent être touchées? Donc, si on dit que tous les signes sont blancs, eh bien, je suis le signe noir, ici, devant vous, aujourd'hui. Donc, si vous prenez une décision qui soutient l'anonymat, alors il faut accepter que vous êtes complicite. À l'avenir, je dirais que vous êtes complicite donc de torture anonyme contre ces personnes. Et je connais beaucoup de personnes conçues par dons qui ressentent la même chose que moi et qui ont vécu de nombreuses années à vouloir exprimer ça. Donc, je me suis rendue auprès de l'autorité britannique sur la fertilisation humaine et l'embryologie. HFAEA, oui, mais en fait, on nous repousse à chaque fois, écoutez, payez vous-même pour votre psychothérapie, etc. Donc voilà, finalement, j'ai été entendue et il y a eu donc un recours juridictionnel qui s'est soldé donc par le droit de connaître son identité comme faisant partie intrinsèque du droit à la vie privée et vie familiale, article 8 de l'HCDH. Donc voilà, donc une personne conçue par insémination artificielle avec donneur a le droit de connaître son identité donc je suis heureuse en fait de que la situation ait changé au Royaume-Uni, mais bien sûr qu'il y a pas mal de personnes conçues comme cela dans le monde. Nous avons au moins un port d'attache où on peut déclarer donc son problème. Par exemple, en Angleterre, on nous demande, êtes-vous d'accord avec le service des toilettes? Est-ce content, pas content, très mauvais? Moi, je veux toujours appuyer sur le bouton pas content par rapport à la pratique de l'anonymat. Donc, un de mes meilleurs amis, Kono Argish, qui a mené campagne en Australie pendant 15 ans. Elle a passé 15 ans pour essayer de savoir qui était son père géniteur et qui étaient ses frères et sœurs. Elle est née dans une famille avec d'origine maltaise.
Whilst she was campaigning.
Mais elle ne l'était pas. Et voilà, elle a fini par rencontrer son père. Et en fait, il était enchanté de faire sa connaissance. Il était même très dérangé qu'elle ait passé 15 ans de sa vie à le traquer et d'avoir rencontré toutes ces barrières législatives. Il est membre d'une organisation qui s'appelle MAD, Homme contre les dons de gamètes anonymes. Et il y a quand même beaucoup d'hommes qui ont compris après coup que voilà, quand on leur a dit qu'ils n'avaient pas de responsabilité morale pour les enfants qui naissaient de leur sperme, eh bien, rétrospectivement, ils se sont rendus compte, comme lui, que oui, ils ne s'en moquaient pas. Et il y a plein de questions et j'aimerais bien pouvoir répondre. Et moi-même, j'ai des questions. Et c'est un père très aimant, en fait. Pour elle. Donc, elle a deux pères maintenant. C'était pas le père social, mais le père génétique, le père géniteur. Voilà. Alors, pendant sa campagne, elle a eu des problèmes à l'estomac. Il pensait que c'était un syndrome intestinal, mais c'était en fait un cancer génétique. Et alors, c'était en fait un cancer de l'intestin stade grade 4. Et donc, pendant les débats parlementaires, le gouverneur général a cassé donc cette règle d'anonymat pour qu'elle rencontre son père 6 semaines avant qu'elle ne meure. Regardez comme il est content de la rencontrer. Elle est décédée, Narelle. Elle a eu 8 frères et sœurs inconnus qui se trouvent donc dans d'autres familles qui sont aussi prédisposées à ce genre de cancer d'origine génétique. Or, il y aurait pu y avoir des dépistages précoces, des thérapies pour empêcher une mort précoce. Alors, quand les parlementaires ont eu conscience de sa souffrance, ils l'ont vu mourir et ils savaient qui étaient les demi-sœurs de mes frères, ils ont donc légiféré pour cette loi Narel qui a cassé donc cette interdiction de connaître l'identité du donneur et donc cassé l'anonymat. Donc, ceci a été appliqué rétroactivement, jusqu'à 1975. Donc, ces personnes nées d'un don. Voilà. Nous avons, pour certaines personnes, c'est très précieux de ne pas savoir donc qui est le géniteur. Mais il y a beaucoup d'autres qui souhaitent savoir. Par conséquent, il faut aussi tenir compte du fait que l'on peut empêcher aussi des cas de décès précoce. Il y a aussi des dons dans des zones géographiques restreintes. Et donc, le taux de probabilité d'avoir une attraction sexuelle génétique, donc, il y a donc des cas de liens consanguins et c'est quelque chose qui est un fait connu. Il y a des chances d'être attiré par quelqu'un qui vous est apparenté. Et dans l'adoption, on l'a bien compris, ça, le rôle de la consanguinité. Alors, les lois représentent la malhonnêteté, manque de transparence et manque d'égalité. Je dirais même que c'est ça ce que fait le don anonyme. Donc on a des traitements différents pour différents types de personnes qui produisent des lots différents dans des endroits différents. Ça dépend de là où vous êtes né. Quand vous êtes né, vous avez donc à bénéficier ou pas de certaines règles de loi. Voilà. On ne peut pas donc contacter ou harceler le parent génétique contre leur gré, mais vous pouvez quand même savoir qui ils sont. Et s'ils cherchent le contact avec vous, vous pouvez donc les voir. Mais bien sûr, vous pouvez être passible d'amende et même emprisonné si vous enfreignez donc cette règle de loi. Alors, sur le certificat de naissance de mes enfants, voilà, les parents non génétiques sur un certificat de naissance, c'est frauduleux. Parce que, voilà, j'ai mis le nom de mon meilleur ami comme père. Donc, voyez-vous, la vérité génétique, c'est ce qu'on attend de voir sur un certificat de naissance. Or, finalement, on s'en remet aux gens et au gouvernement pour protéger ce principe. Or, si vous êtes né d'un don de gamète, eh bien, il y a des personnes qui trompent par rapport à leur dossier médical. On les trompe, ces gens. C'est donc un droit humain élémentaire. Il y a eu une autre personne qui a gagné sa procédure devant le tribunal et il y avait donc des blancs qui étaient mis à la place du nom du père. Je voudrais savoir qui est le nom de mon géniteur. J'ai cru que j'étais une personne pendant longtemps et après j'ai compris que une partie de ce que j'étais n'était pas vrai. Et donc il y a donc aussi une campagne en cours que on est en train de bafouer les droits des enfants à une vie familiale car ils n'ont pas le droit de contacter leur famille génétique. Alors donc, à moins que bien sûr vos parents vous disent que vous avez été conçu par don, et la loi fortifie cette norme. Mais si vous êtes adopté, en revanche, vous avez un certificat de naissance qui vous dit qui est la personne qui est votre géniteur. Donc voilà, il n'y a pas d'égalité de traitement à l'heure actuelle, et c'est important que nos gouvernements protègent ces générations futures contre ce type de pratique frauduleuse. Et après, on nous dit que voilà, il y a un intérêt très important il y a beaucoup d'argent aussi en jeu. Donc il y a l'industrie de l'infertilité, de la stérilité, qui nous disent ah, mais qui ne veulent pas qu'on lève l'anonymat, c'est tellement complexe et qu'il vaut mieux qu'on s'autorégule nous-mêmes. En Angleterre, on a une organisation qui s'appelle le AHFA. Et donc, en fait, vous avez 50% de prestataires de l'industrie. Et les autres, c'est des gens qui sont pour le clonage et pas un seul... pas une seule personne qui a été conçue par don anonyme. Il y a 10 ans, ils m'ont dit que voilà, je ne serais pas une bonne joueuse dans leur équipe. Donc vous savez parfaitement quel type d'équipe ils souhaitent. Voilà. Donc la représentation n'est pas équitable. Elle n'est pas appropriée puisque ceci ne se fait pas afin donc de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Ils ne sont ni représentatifs ni élus. Et finalement, ils ont reconnu que, en fait, les personnes issues de dons sont quand même des parties prenantes. Or, elles ne font pas partie de ce comité de l'autorité nationale de fertilisation humaine. Voilà. Ils ne sont pas prêts à entendre les personnes qui sont nées donc d'un don avant 1991. Voilà. Moi, je peux vous dire que je suis issue. Donc, les personnes qui ne souhaitent pas savoir d'où elles viennent sont considérées comme étant très équilibrées. Et les autres ne le sont pas. Donc, c'est l'industrie ou encore les groupes de soutien. Et ce sont ces personnes qui comparaissent. Et pour ceux qui, justement, lancent l'alarme et qui disent qu'il y a un problème, eh bien, en général, ne sont pas en situation de dire quelles sont les données du problème. Donc, vous avez donc un degré de refoulement et de... moi, j'ai dû faire un procès que j'ai gagné, j'ai dû écrire un doctorat que j'ai obtenu et pour être entendue. Donc, qu'est-ce que j'ai observé en écrivant? Je suis dyslexique, alors imaginez que ça m'a pris quand même beaucoup d'efforts, 7 ans au total. Qu'est-ce qui se passe juridiquement? En général, l'intérêt supérieur de l'enfant, et je consulte bien sûr le droit international qui régit les droits de l'enfance, et il y a aussi le conflit d'intérêts. Normalement, on donne la priorité, bien sûr, et prévalence à cet intérêt supérieur de l'enfant. Or, c'est les parties intéressées qui définissent donc ce que qu'est cet intérêt supérieur. Donc, quels sont les principes? Eh bien, ces principes sont extrêmement souples. Dans ces pratiques, l'État, donc, est bien sûr pour la protection de l'enfance selon le principe d'intérêt supérieur de l'enfant et le droit d'avoir accès donc à notre famille naturelle. Normalement, vous avez le droit humain qui était mis en place pour protéger le droit de l'enfant et le droit notamment de connaître qui était la famille naturelle. Et on ne pouvait s'ingérer que si l'enfant était menacé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La loi écarte la famille génétique, fortifie la famille sociale. C'est quasiment passé sous contrat. Pour certains, ça marche, mais pour d'autres, ça ne marche pas. Alors voilà, au lieu de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant, et c'est d'ailleurs, on parle de santé et bien-être de l'enfant, on a des lois qui sont introduites en Irlande, voilà, il faut prendre en ligne de compte le bien-être de l'enfant autant que praticable. Voilà, c'est le début de la pente glissante, c'est quoi l'intérêt supérieur? Est-ce que c'est les parties prenantes qui décident? C'est un marché d'acheteurs. Et, or, dans un marché, d'ailleurs, on parle ici d'une industrie de la fertilité, ça vaut 5 milliards au bas mot. Donc, vous avez des banques de sperme lucratives. Nous avons donc une sorte de gruyère législative avec beaucoup d'échappatoires. Bon, l'HFEA est satisfaite de la situation. Vous pouvez quand même aller dans une clinique, dire voilà, je veux un don anonyme. Non, c'est en fait le fait que ce soit un droit humain d'avoir un don non anonyme. On encourage en fait à avoir un don anonyme dans ces autres pays. Voici mes enfants. Mon fils a dû avoir un holter il y a 2 semaines. Ma fille donc a des gros problèmes de diabète. Et à chaque fois que je vais voir un généraliste, il me pose la question, est-ce que vous avez une histoire de famille avec ces problèmes-là, avec ces pathologies? Eh bien, je ne peux pas lui répondre, je n'en sais rien. Donc, l'intérêt de mes enfants, c'est... Et ils sont responsables donc de la mort précoce de Narel Gish ou encore la mort d'Alison qui est aussi décédée à Harley Street. Et ils sont responsables, c'est-à-dire ils sont complices d'avoir donc accepté donc que son certificat de naissance ait été modifié de sorte à ce ne pas savoir qui était le géniteur. Moi, j'ai grandi. Ma famille sociale est d'origine est juive en fait. Donc voilà, on fait beaucoup de choses par rapport aux ancêtres. Il y a 2000 ans, on mimique donc les traditions de l'époque. Il y a 2000 ans. Or, ce n'est pas en fait de là que je viens. Et donc, je dis à mes enfants tout simplement que je n'en sais rien. Je ne sais pas si tu es irlandais. On écoute de la musique. Ah, est-ce qu'on est irlandais? J'ai dit, je ne sais pas. Mon fils est, lui, déjà prêt à se battre. Ce n'est pas que moi. C'est des conséquences intergénérationnelles. Donc, je vais conclure. Nous avons besoin d'un changement de paradigme pour les technologies de reproduction, pour les traitements centrés sur l'adulte, de manière à ce qu'on puisse avoir des normes qui tiennent compte de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfance. On a quand même beaucoup, beaucoup d'experts, mais ces experts ne sont pas des gynécologues. Les gynécologues sont en fait des experts en gynécologie. Donc, il faut vraiment s'intéresser au déséquilibre pour ce qui concerne la question de la représentation des parties prenantes. Alors, parmi les chercheurs, combien ont des parents adoptifs? C'est vrai que beaucoup sont concernés. Donc, il faut des protections pluridisciplinaires pour répondre aux conflits d'intérêts qui émanent de cette industrie de la stérilité et les utilisateurs. Il faut reconnaître aussi qu'on a ici une expérimentation sociale qui a été faite sur moi. Moi, je n'ai pas eu de choix. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites une expérimentation sociale sur quelqu'un et qu'on vous dit « Stop, ça fait mal, ça me fait du mal ». Et voilà ce qui m'est arrivé quand j'étais quand j'avais 20 ans et personne n'est venu m'aider. Il n'y a pas d'intérêt à freiner le train qui est déjà lancé. Pas le temps de parler, on est déjà, voilà, tant pis pour toi, paye toi-même pour tes thérapies. Or, il s'agit de prendre vos responsabilités, réagir entendre ceux qui, à qui on a fait du tort, et aussi s'excuser, pas seulement ceux qui sont morts, parce qu'on leur a refusé donc des données importantes médicales. Donc, qui est votre premier géniteur? Moi, j'aimerais bien avoir quand même des excuses, parce que quand même, on voit qu'on a maintenant des excuses qui sont proférées pour différentes raisons. Voilà, nous avons besoin des dossiers qui sont préservés, conservés. Or, on sait que les dossiers sont détruits. Et il y a toujours un incendie de bureau pendant mon procès. Le gynécologue a dit qu'il y avait eu une inondation, ensuite un incendie, et donc bref, le dossier avait disparu. Il nous faut absolument avoir accès à ces données de dossier. Il y a des services de conseil psychosocial. Nous connaissons les connaissances des interruptions génétiques. L'égalité pour tous, pour ce qui concerne la parenté génétique et l'identité, pour tous les groupes de société. Si vous avez de l'empathie pour les cas de stérilité et que vous aidez les parents, donc permettez donc toutes sortes de choses, fertilisation in vitro, etc., PMA, alors il faut donc que les mêmes principes s'appliquent à nous. Nous devons avoir le droit de savoir qui est notre famille génétique. Merci, Madame Rose.
We got just now the connection.
Nous sommes finalement en contact avec l'Ouzbékistan et Tania va appeler ce donneur anonyme qui veut témoigner.
Allez maintenant. Allô? Allô? Bogdana.
It's behind you.
What do I do? I can't hear him.
Because you muted it by mistake.
Allô, monsieur?
Oui.
Est-ce que vous pouvez parler maintenant? La commission vous entend.
Oui. Ok. Qui pose des questions ou c'est moi qui dois parler?
Oui, vous pouvez aussi commencer juste par parler, peut-être. C'est plus simple.
Pour simplifier les choses, on va s'appeler Gérard d'une part le donneur et Arthur le fils biologique. Ce sera plus simple pour la communication. Donc, moi j'ai donné des gamètes en 1974 au SECOS à Paris sur l'initiative du professeur Léon Schoenberg. J'ai donné, je crois, 3 ou 4 fois, toujours dans l'anonymat total. Tout le monde m'entend là, c'est bon ou pas du tout?
Un moment, s'il vous plaît, on va juste regarder pour l'interprétation. Un moment, s'il vous plaît.
Oui.
They cannot translate.
They cannot translate.
They said they not understand the...
Vous pouvez continuer, on va essayer au moins de peut-être savoir un petit peu plus.
Est-ce que la commission a des questions à poser de façon plus rationnelle?
Oui. Peut-être déjà, comment est-ce que vous avez vécu votre expérience?
Oui. Ça va être difficile parce que je pense, j'ai déjà été confronté à ce genre d'interview et je préfère qu'ils posent des questions, ça sera beaucoup plus rationnel pour moi parce que là je vais pas vous expliquer, je vais pas en faire un roman. Si cette commission elle a des questions précises à poser, je pense que ça sera quand même plus rationnel pour tout le monde.
Hast du eine Frage, die du genau fragen möchtest?
The translator said it's easier for them to understand what he's answering when there's a question.
Yeah. Quelqu'un veut poser une question à notre donneur?
Oui.
Madame de Temmerman.
Bonjour monsieur, je ne sais pas si vous m'entendez.
Bonjour madame.
Je suis députée française et il se trouve que je suis née d'une procréation médicalement assistée. Donc effectivement...
Je ne vous entends pas assez clairement.
Oui, je suis un peu malade, j'ai pas une pas beaucoup de voix. Je voulais savoir si vous aviez eu contact avec des enfants nés de votre don. Oui.
Absolument pas.
Absolument.
J'ai eu Arthur comme contact.
D'accord. Donc Arthur, c'est un enfant issu de ce don qui aurait pris contact avec vous, c'est ça? Parce qu'on ne sait pas exactement.
Exactement.
Et ça s'est bien passé. Je voulais savoir si ça s'était bien passé, si c'était votre volonté.
C'est trop caché. Je ne comprends pas la moitié de vos paroles.
Madame de Temmerman aimerait bien savoir si ça s'est bien passé quand Arthur vous a contacté.
Arthur m'a contacté par un courrier renié aux voisins parce que vous ne savez pas si ma femme était au courant de ses dons. Donc il avait pris beaucoup de précautions. C'était assez sage de sa part quand même. Donc moi j'ai eu le courrier qui m'a fait parvenir le 23 décembre 2017. Lorsque j'ai ouvert ce courrier, j'ai bien compris. Ce qui m'a étonné quand même, c'est comment ce jeune homme avait-il fait pour pouvoir me retrouver. Ça, c'était quelque chose d'assez fabuleux et extraordinaire. Donc, grâce à l'ADN et miracle de la science, on a pu se retrouver. Donc, je l'ai appelé comme cadeau d'anniversaire. Je l'ai appelé le 25 décembre 2017 à 10h. J'ai pensé que c'était un beau cadeau. Voilà. Donc, tout le monde a été ravi de ce coup de téléphone. Et par la suite, nous avons communiqué régulièrement le samedi vers 11h. Et puis ensuite, on s'est rencontrés. Et là, ce fut quand même un grand moment d'émotion.
Donc, quelque part, vous ne regrettez pas que l'anonymat ait été levé à un moment. Ça a été positif pour vous dans votre vie de pouvoir rencontrer cet Arthur.
Non, je ne regrette rien. Et s'il y avait d'autres enfants qui venaient frapper à ma porte, j'ouvrirais ma porte comme je l'ai ouverte à Arthur, bien sûr. Mais ce qui serait quand même judicieux, puisque je pense que vous êtes à ce Conseil de l'Europe, je pense que vous avez certains pouvoirs, essayer quand même de lever cet anonymat, parce que franchement, je suppose qu'il y a certains enfants qui n'ont pas besoin de retrouver ou de chercher leurs racines. Ça peut très bien se faire. Mais il y en a d'autres qui en ont besoin. Et donc, si ces enfants-là, la majorité, désirent retrouver leur donneur, et si le donneur souhaite lever cet anonymat, il faut que vous, le Conseil, fassiez quelque chose. Au moins, on n'est plus en 1974 avec une espèce de restriction quand même.
Oui. Bonjour monsieur, je suis Petra de Sutter, rapporteur pour le Conseil de l'Europe, et je voulais vous poser la question si maintenant, aujourd'hui, on vous demanderait d'être un donneur de sperme et l'anonymat aurait été levé, est-ce que vous le feriez ou est-ce que vous l'auriez fait en 1974 si en effet l'anonymat n'aurait pas existé à ce moment-là? Donc je vous pose la question du point de vue du donneur.
Allô?
Oui, est-ce que vous avez compris ma question?
La communication est très difficile.
Peut-être je vais répéter la question de la rapporteuse, Madame Desauter de la Belgique. Elle voulait bien savoir si Aujourd'hui, si l'anonymat était élevé, vous donnerez aussi du sperme ou si votre don en 74 était basé sur l'anonymat, si c'était important pour votre décision.
J'ai pas compris. Je suis désolé, hein, c'est trop, c'est haché. Répétez doucement, s'il vous plaît.
Madame de Sutter voulait bien savoir si vous auriez donné votre don en 74 aussi sans anonymat à l'époque.
Non, je ne comprends pas. Je suis désolé. Hein.
Oui.
Je suis désolé, je ne comprends pas. La oui. question est trop hachée.
Oui, merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec nous. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que la connexion n'est pas très bonne. Mais on vous remercie beaucoup.
Je suis hyper désolé parce que je voudrais que ce Conseil de l'Europe puisse faire quelque chose pour lever cet anonymat. Parce que vous voyez, ce Arthur, il est très satisfait de notre rencontre et tout. Donc, ça va lever beaucoup de choses. Et les recherches de racines, je suppose que vous m'entendez beaucoup mieux. Et donc, je vous en prie, faites quelque chose parce que on est quand même on est au 21e siècle, on n'est plus en 1974. Faut faire quelque chose.
Merci beaucoup, alors, monsieur.
Écoutez, s'il y a une nouvelle réunion, là, c'est un concours de circonstances. On est en voyage en Ouzbékistan, donc je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre avec beaucoup plus de, comment je pourrais dire, lâché comme ça. Mais si vous voulez qu'on se recontacte, vous passez par Arthur et je vous promets que nous pourrons communiquer.
Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci de votre disponibilité.
Je suis désolé. Hein.
Merci.
Je vous souhaite une bonne journée et bon courage à vous.
Merci. Merci beaucoup.
Bonsoir, madame.
He's French, but...
Il est français. Mais il est en mission en Ouzbékistan en ce moment. Mais je crois que le conseil va nous tuer parce que cette communication était très chère. Mais nous avons fait de notre mieux, dit le président, et il est très intéressant que de recevoir le témoignage de quelqu'un qui était un donneur anonyme J'ai cru entendre qu'il avait eu 19 enfants, mais c'était peut-être une erreur. J'ai peut-être mal compris. Donc, il a lancé un appel au Conseil de l'Europe pour que le Conseil œuvre à la levée de l'anonymat. Maintenant, je me tourne vers vous et j'aimerais savoir si vous avez des commentaires pour nourrir, enrichir cette si intéressante audition publique. Monsieur Mullen.
Thank you, Stefan.
Merci, Stefan. Nous sommes face à un énorme problème et je voudrais féliciter Petra de Sutter d'avoir réuni autant de témoins qui peuvent nous montrer combien cette question est complexe et troublante. J'aimerais citer Walter Scott en l'adaptant tout est très complexe. Il y a effectivement une énorme complexité et je suis frappée de voir qu'il y a une question préalable ici que l'on devrait tous se poser et que chacun de nos États membres devrait se poser. Est-ce qu'un enfant a un droit supérieur aux besoins qu'ont les parents d'enfanter, car cela nous permettrait de savoir dans quel nous voulons aller, si il existe un tel droit, comme on en a parlé. Eh bien, Au coup, comment se ce droit? Est-ce le droit de ne pas savoir qui est votre ascendance génétique? Voilà, je crois qu'il convient de réfléchir là-dessus. Mais l'existence d'une... Il y a là une question fondamentale que l'on devrait évoquer dans le rapport, car elle détermine beaucoup de ce qui vient ensuite. Si l'on considère que... où la conception, est possible. Qu'en est-il des droits des enfants? Et est-ce que si on voyait les choses sous un autre angle, on a après entendu Christophe et Johanna, et je les remercie d'être venus ici témoigner. La question qui m'est venue à l'esprit était celle-ci. Est-ce qu'une personne a le droit qu'on lui dise si elle a été conçue par don? Je serais très intéressée de savoir quelles se sont les réponses de Christophe et de Johanna. Vous avez ce droit, mais seulement si vous le demandez. Et voilà la complexité dans laquelle nous sommes. Il ne signifie pas de considérer la question de savoir si une personne pourrait être blessée ou souffrir du phénomène du don anonyme de gamène. La question est la question des droits. Est-ce que quelqu'un a le droit de savoir que l'on souffre ou pas de l'anonymat et des conséquences qui peuvent en découler. Enfin, avec la science et la science sociale nous parlent de l'importance qu'ont les pères de nos jours. Et donc, ne devrions-nous pas rappeler aux hommes quelles sont leurs responsabilités? Cela implique de les interroger sur les responsabilités par rapport à ce qui arrive à leurs gamètes. Nous avons... Quelqu'un qui donne de façon anonyme par définition, ne devrait-il pas avoir l'obligation de s'occuper de cet enfant? Si cet enfant est élevé dans une famille pauvre et que le donneur est quelqu'un de nanti, n'y a-t-il pas là une responsabilité associée à ce don? Encore, c'est une question à laquelle nous devons réfléchir dans le contexte de ce rapport. Et je vous souhaite bonne chance, car vous êtes aux prises avec quelque chose extrêmement difficile. Merci, Madame Strella. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais remercier tous les intervenants. Toutes étaient très intéressantes. Ce débat, à mon sens, est extrêmement utile. Mais à l'issue de ce débat, j'ai plus de doutes que de certitudes. Mais en tant que députée portugaise, je devrais me prononcer et je devrais adopter une position que je n'ai pas encore. Je suis extrêmement divisée. Et les sentiments qui m'habitent sont très contradictoires. Et me demande comment l'on peut élaborer une législation juste et équilibrée qui tienne compte des intérêts contradictoires des enfants, des donneurs, des familles, de toutes les parties impliquées. Voilà qui me semble extrêmement difficile. Bien entendu, je ne nierai pas l'importance de la génétique et de son importance pour l'identité de l'individu. Mais par ailleurs, il importe de tenir compte de ceci. Lorsqu'une personne est issue d'un don de gamètes, c'est parce que quelqu'un qui était stérile ou infertile, et s'il y avait quelqu'un qui voulait absolument avoir un enfant. Et ça, c'est très important également. Et si nous comparons ces situations avec l'adoption, avec tous les problèmes que l'on connaît, que l'on a évoqués, du fait de l'anonymat des parents qui ont donné leur enfant en adoption et le droit qu'a l'enfant de connaître sa famille biologique. Enfin, c'est une question que je me pose à moi-même, mais j'aimerais avoir ici l'apport des spécialistes, de ceux qui ont étudié la question. Je ne l'ai pas étudiée moi-même, mais je la connais fort mal. Je me demande s'il serait possible de n'accepter que des donneurs qui soient enregistrés. Enregistré, j'entends par là quant à leur état de santé, de telle sorte que l'on soit sûr que ce sont des donneurs sains, comme on le fait par exemple pour les dons de sang. Il y a des exigences qui doivent être respectées en la matière. Donc, ma question vient plutôt de tous les doutes, de toutes les inquiétudes qui m'assaillent et du fait que je suis totalement dépourvue de certitude. Merci. Merci, Madame Strel.
Merci à tous nos orateurs pour cet éclairage vraiment multifacette qu'ils nous ont fait. C'est très intéressant pour nous. Alors moi, il y a juste un aspect que j'ai découvert en écoutant Christophe et en parlant avec ma collègue Jennifer de Tellerman. C'est, on dit, bon, Christophe dit, il y a 70 000 enfants issus de dons de gamètes, on parle des droits des enfants, à savoir, effectivement, de quel donneur, leur patrimoine génétique, etc., ou de quel donneur ils sont issus. Mais moi, la question que je me pose, c'est, dans les 70 000, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas dit à leur enfant. Et est-ce qu'il n'y a pas un devoir, à un moment donné, aussi, de dire, parce que ça, parfois, ça arrive quand ils ont 20 ans, quand ils ont 18 ans, et ça fait des catastrophes, peut-être, énormes. Alors, est-ce que, je ne sais pas... est-ce qu'il n'y aurait pas à un moment donné l'intérêt de se pencher sur l'histoire du devoir des parents qui font appel aux dons pour qu'ils soient responsabilisés sur les dégâts que peuvent faire le fait d'apprendre cela plus tard. Merci.
Thank you, Yolande. Now, Franz Hessel.
Merci. Franz Hessel. Merci, Monsieur le Président. Alors, un des préopinants l'a déjà évoqué, il y a des méthodes qui permettent chez soi de rechercher de vérifier donc qui est votre géniteur de façon à ce que donc l'anonymat c'est quand même primordial. Il faudrait dire ouvertement quelle est la réalité du départ. Mais c'est vrai que il y a peut-être dans ces procédures de procréation, il y a peut-être le faux nom du père dans les certificats. Mais bon, je pense qu'il doit être possible de vérifier qui est le géniteur après coup. Et quand même, le droit des enfants est-il plus important que le droit du donneur et du parent? Il y a quand même des conséquences. À partir de quel moment naît ce droit? Le droit des enfants naît-il seulement à la naissance ou est-ce qu'il commence même avant la naissance? Voilà, je pense qu'il faudrait donc au moins pouvoir en discuter. Merci. Encore deux demandes de parole. Madame Martine Mergen.
Je serai brève comme toujours. Je félicite aussi Petra d'avoir rassemblé ce panel qui était vraiment en partie très émotif et en partie quand même aussi très capable de démontrer les finesses du problème. Moi, j'ai plusieurs points à demander. Est-ce que monsieur, je regarde le nom, monsieur Oliveira da Silva a parlé du changement de la loi au Portugal et il faut sortir, bon, je pense que pour le futur, des donneurs seront là qui ne voudront plus être anonymes. Maintenant, on parle du passé. Les donneurs qui ont donné leur sperme, leurs ovocytes ou leurs embryons par le passé ont eu la garantie qu'ils pouvaient rester anonymes. Alors, je me demande s'il ne faudra pas faire la différence, malgré les tests génétiques à la maison, s'il ne faudrait pas faire la différence entre les gens qui ont été donneurs sous les législations qui garantissaient l'anonymat et un éventuel futur. Et puis, j'ai une autre question pour les personnes qui sont concernées directement. Moi, je pense qu'il faut que les parents disent à leurs enfants à certains moments qu'ils sont issus d'un don de gamètes. Mais moi, je voulais savoir à quel moment pensez-vous qu'il faut le dire aux enfants.
It's the same question, maybe.
La même question que pour l'adoption. À quel moment vous devez parler à vos enfants? Anne de Finlande. Ensuite, Stella, Chypre. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui, Monsieur Heume, Allemagne. Et vous aussi? Vous demandez la parole? Très bien.
Thank you.
So, in Finland.
En Finlande, l'identité du donneur a été enregistrée à partir de 2007. Par conséquent, je suis pour que l'on fasse la même chose dans les autres pays. Donc, en Finlande, nous avons le système suivant. L'enfant, lorsqu'il atteint 18 ans, il ou elle a la possibilité, a la faculté de connaître l'identité du géniteur. Alors, il y a une chose qui s'est passée après l'adoption de cette législation. Le nombre des donneurs de gamètes a chuté. Mais après, ça a repris. Ça s'est sensiblement relevé. Donc, il faut reconnaître que... Il faut assurer qu'il y ait suffisamment de donneurs.
Stella.
First of all, I want to thank everyone on the panel.
D'abord, je souhaite remercier les membres du panel pour l'excellence de leur présentation et je remercie une fois de plus Petra de Sutter qui, à nouveau, nous soumet des questions et des rapports qui nous obligent à aller plus loin. Et c'est bien ça. Un des enjeux de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Écoutez, je pense que nous sommes confrontés à de nouvelles réalités dans le domaine de la conception par don de gamètes. Il va falloir réajuster nos paradigmes. Nous n'allons pas toujours être unanimes sur la marche à suivre. Mais je voudrais quand même dire que le droit des enfants doit être considéré comme primordial et que les enfants ont le droit de savoir. Je me souviens, en tant que pédopsychologue, il y a de nombreuses années, que même dans les cas d'adoption, il était considéré comme étant extrêmement délicat pour les parents de révéler aux enfants qu'ils étaient adoptés. Or, maintenant, la grande majorité des parents savent qu'on attend d'eux qu'ils disent à leurs enfants qu'ils ont été adoptés. Alors comment et quand le dire? Maintenant, nous pouvons même donner des conseils sur le meilleur moment. Donc, c'est un changement de paradigme. Dans le cas d'enfants adoptés, quand ils ont le droit de savoir, il faut encourager les parents de révéler. Et je pense que c'est la même chose pour la conception par don. Alors, j'ai vu la carte montrée par M. d'Oliveira. La majorité des pays européens ont donc levé l'anonymat. Je voulais être sûre d'avoir bien compris cette carte. Et je pense en tout cas que c'est un pas dans le bon sens.
Ok, Mr. Hume.
Monsieur Hume, vous êtes le dernier. Merci pour les exposés de nos intervenants. Qui nous livre autant de doutes. D'abord, il faut tenir compte, bien sûr, des droits des enfants, le droit de savoir quelles sont leurs origines. Moi-même, j'ai un cas semblable dans ma famille qui a duré pendant plus de 60 ans. Mais d'autre part, nous avons le droit aussi des donneurs anonymes. Et j'ai pu retenir des présentations aussi le problème des maladies génétiques. Une question tellement complexe que je ne peux pas vraiment voter sur quoi que ce soit avant de m'être informée dans mon pays. Merci. Dernière experte. Madame Fritz, Madame, merci de me permettre de prendre la parole. Je serai vraiment rapide. J'ai mené des recherches dans ce domaine pendant un certain nombre d'années. C'est une question fort délicate, car ça concerne les familles, la génétique et des choses qui nous tiennent à cœur. Vous l'avez entendu, au Royaume-Uni, nous avons levé l'anonymat en 2005. Or, nous ne l'avons pas appliqué rétrospectivement, cette levée d'anonymat. Donc, les donneurs qui s'étaient inscrits l'avaient fait sous condition d'anonymat. Donc, voilà comment on peut contourner les difficultés de personnes à qui on demande d'être donneur. Voilà, ils peuvent se réinscrire comme étant des donneurs non anonymes. Et d'ailleurs, l'État de Victoria en Australie l'a fait aussi. Voilà, vous pouvez être pour l'anonymat, le maintien de celui-ci, mais pas nécessairement de l'appliquer de façon rétrospective. Mais il y a les droits des donneurs qui doivent aussi pouvoir choisir comment ils veulent donner. Alors, les enfants n'ont pas le choix, donc ils naissent dans une situation. Or, les adultes qui sont concernés dans ces procédures, s'ils estiment qu'ils ne sont pas d'accord avec l'anonymat, eh bien, ils peuvent choisir de ne pas donc s'y soumettre. Il faut souligner donc, et je crois que Joyce l'a dit, que c'est difficile de maintenir aujourd'hui l'anonymat. Donc, dans mes recherches, parmi donc des personnes nées d'un don, il y a donc des tests génétiques, eh bien, souvent des secrets ont été révélés lors de disputes de famille, il y a des désaccords, et souvent c'est difficile de maintenir l'anonymat, même si vous avez l'intention ferme de la maintenir. Donc voilà, nous sommes en train de passer à une situation où la conception par don, c'est un concept plus accepté, il n'y a pas de honte. Et la société est plus ouverte. Donc, comme pour l'adoption, nous sommes plus en mesure d'en parler. C'est moins considéré comme étant un problème. Voilà ce que l'on fait. On forme des familles. Et comme Joan Anne l'a mentionné, il y a des familles qui sont créées pour longtemps. C'est pas simplement un enfant qui est issu d'un don de gamètes.
Thank you too.
Merci. Christophe, vous avez donné ce chiffre, 70 000. C'est uniquement en France ou un chiffre européen?
Also interesting. So again, can I give...
Voilà, je voudrais donner la parole à vous, nos experts. Voulez-vous commencer, madame, ou vous? Qui veut commencer? Commençons par la personne à qui vous avez posé la dernière question. Christophe.
Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées et sur lesquelles j'aimerais revenir parce que finalement, c'est des choses aussi qui sont tellement répétées sans qu'on se pose certaines questions dès le départ qu'elles passent pour des vérités. Je vous parlais déjà de l'histoire des maladies. Alors, en France, les SECOS, les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme, accueillent les donneurs et justement pratiquent des tests génétiques et posent des questions aussi. Il y a un entretien clinique. Est-ce que dans votre famille, vous avez eu des cas de diabète? Est-ce que vous avez eu des cas justement de problèmes cardiaques, etc. Un donneur sur deux, voire plus selon les centres, est refusé. C'est-à-dire que les banques de sperme ne prennent aucun risque. S'il y a un doute, le donneur est écarté. Ce qui veut dire que pour les donneurs qui restent, qui ont été sélectionnés, par essence, le dossier médical est vierge, totalement vierge. Ce qui veut dire que la question du dossier médical est un faux problème, qui a été effectivement amené par des personnes qui souhaitaient la levée de l'anonymat en disant on ne sait pas, effectivement, moi j'ai été confronté devant mon généraliste, il me pose la question, eh bien je lui dis qu'il n'y a aucun antécédent, puisque s'il y avait eu un problème de diabète ou de cancer d'origine génétique, le donneur n'aurait pas été choisi. Donc, par essence, ce dossier médical est vierge et c'est un faux problème qui a été asséné depuis des années comme une vérité, alors que vous avez un donneur sur deux qui est écarté. Vous croyez vraiment que des médecins prennent le risque de faire naître des enfants qui développeraient par la suite des maladies? Je vais vous le dire, puisqu'on a parlé aussi, on est tombé dans l'émotionnel avec cette personne conçue par don qui avait une maladie. Moi, j'ai une maladie génétique. Je suis arrivé, je ne suis pas passé sous le portique, parce que j'ai un défibrillateur cardiaque implanté, ce qui veut dire que je peux mourir à tout moment, mais que je serai sauvé grâce à mon défibrillateur cardiaque. Bon, après étude, quand on en a discuté au sein de la famille, ça vient de ma mère. Ma mère est ma génitrice, donc ça veut dire que, je veux dire, chaque fois que vous prenez la décision de faire un enfant, vous transmettez quelque chose à cet enfant, vous lui transmettez des gènes. Et la génétique, c'est une loterie. Donc, chaque fois que vous, qui pouvez concevoir naturellement vos enfants, vous prenez un risque que cet enfant soit atteint d'une maladie. Statistiquement, les personnes issues d'un don de gamètes ont moins de chances d'avoir un cancer d'origine génétique, puisque de toute façon, les donneurs sont écartés. Moi-même, j'avais pas de chance, par exemple, de pouvoir développer un diabète, puisqu'on écarte les donneurs. Alors, ce serait un diabète, à ce moment-là, je sais plus si c'est le type 1 ou le type 2 qui est transmis génétiquement, mais il y en a un des deux, en tout cas, qui ne peut pas être transmis. Donc, c'est si jamais, effectivement, je me mets à manger beaucoup de sucre, que je vais pouvoir développer un diabète. Ce qui a été écarté aussi des débats, c'est la question de l'épigénétique. Si vous développez des maladies aussi, on sait que maintenant, l'environnement a des conséquences. Et j'ai envie de vous dire, ça fonctionne aussi pareil dans les familles. Si vous avez un enfant qui est conçu par don, qui vient au monde dans une famille qui est structurée, où vous avez la sécurité affective, la sécurité matérielle, que vous êtes aimé et désiré bien souvent avant votre naissance, que vous êtes informé tôt de votre mode de conception, ce qui est mon cas, comme avec mon frère, on a été informé dès notre naissance, et c'est vrai qu'à l'époque, les professionnels n'encourageaient pas les parents à informer les enfants du mode de conception. Dans mon cas à moi, j'ai eu de la chance. J'ai été informé très tôt de ce mode de conception et j'ai pu intégrer ce mode de conception à mon histoire. Je tiens à préciser aussi que pour les personnes conçues par don, leur histoire ne peut absolument pas, j'insiste bien là-dessus, être comparée à l'histoire des enfants nés sous X ou adoptés. Dans la mesure où, si on regarde l'album de famille, on voit maman à la maternité, papa qui était là dès le début, il n'y a aucun abandon. Nous n'avons pas été abandonnés. Il n'y a pas de blessure liée à l'abandon. Une personne qui est née sous X, effectivement, aura toujours cette douleur de savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu un abandon volontaire. Pour des personnes qui ont été abandonnées, souvent, il y a des circonstances dramatiques. Pour nous, qu'est-ce qu'il y a comme circonstances dramatiques? On est venu au monde, on a été désiré et aimé avant même notre venue au monde. Bon. Ce serait extrêmement long à expliquer, mais le dossier médical du donneur, pour moi, est un faux problème. Je pense effectivement qu'il y a des choses à améliorer. Probablement assurer une meilleure conservation des données. Et bon, ça, c'est encore autre chose. Il a été évoqué aussi la question du risque de consanguinité. Là encore, c'est une question qui, moi, me fait beaucoup rire, parce qu'elle est assénée, pareil, comme une vérité, et on ne s'est jamais posé la question de savoir combien, même chez vous, ici, de personnes sont issues de relations adultères. Ce qui veut dire que, quand on a fait, les médecins, justement, ont collecté un certain nombre de données, là, c'est pareil, on les présente comme des gens qui seraient lancés à l'aveugle dans une technique et où les enfants paieraient le prix aujourd'hui. Bon. En France, vous avez 3 à 4% d'enfants issus de relations adultères. Ce qui veut dire que vous avez plus de risques que moi de tomber sur votre demi-frère ou demi-sœur génétique, alors que moi, je suis relativement préservé, puisque le nombre d'enfants qui peuvent naître d'un même donneur a été limité. Donc là encore, on nous parle de l'histoire de la consanguinité, moi je veux bien, mais il faut arrêter de raisonner avec des croyances, il faut remonter justement à l'origine de ces vérités, enfin qui sont assénées en tout cas comme telles. Alors sur l'annonce du mode de conception à l'enfant, évidemment, aujourd'hui, de toute façon, les banques de sperme ont changé leur fusil d'épaule. À l'époque, la société n'était probablement pas prête. C'était des techniques qui étaient assez honteuses. Donc, on pouvait faire comme si rien ne s'était passé, puisque de toute façon, on va prendre un donneur qui ressemble, en gros, dans ses caractéristiques physiques et morphologiques, aux parents infertiles. Donc, on pouvait passer, justement, cette technique sous silence. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que plus les enfants étaient informés tardivement de leur mode de conception, plus ils étaient enclins à, justement, revendiquer cette levée de l'anonymat et à témoigner d'un mal-être. Alors là encore, il y a beaucoup de choses. Vous avez plusieurs raisons de revendiquer la levée de l'anonymat. Moi, je vais vous le dire, puisqu'on a 3 cas dans l'association. 3 cas où, justement, c'était un don de sperme. Vous avez, dans 2 familles sur les 3, un père qui a décidé de partir pratiquement après la naissance de son enfant, et dans les 2 autres cas, le père était décédé. Ces personnes-là souhaitent la levée de l'anonymat et surinvestissent le donneur comme un substitut paternel. On a cette possibilité-là, nous, en tant que personnes conçues par don, de fantasmer ce donneur et de se dire qui sera un meilleur père. Moi-même, j'y ai pensé. J'ai fait des études de droit, j'ai pas fait des études de maths parce que, justement, j'étais mauvais en maths et je me suis dit, mon donneur devait être nul en maths. Mais pas forcément. Peut-être que c'est ma mère, en fait, qui était nulle en maths. Et c'est vrai, puisqu'elle a fait du droit aussi. Donc, on peut imaginer plein de choses. C'est parce qu'on a cette porte ouverte sur des origines inconnues qu'on est capable de projeter des choses. Mais vous aussi, vous avez le droit de projeter des choses, vous pouvez le faire. Est-ce que vous n'avez pas rêvé d'avoir un meilleur père ou une meilleure mère? Je crois qu'aujourd'hui, on a envie de réparer un certain nombre d'injustices. Moi, j'ai un défibrillateur cardiaque, c'est pas juste. Et en plus, j'ai été issu d'un don de gamètes, mais je m'en plains pas. Je dis simplement que la question de l'anonymat, c'est une question parmi d'autres qui sont évoquées par les personnes qui sont informées de leur mode de conception. Pour répondre à la question du nombre, 70 000 enfants, c'est uniquement pour le cas français. Donc, sur ces 70 000 enfants, on ne sait pas aujourd'hui combien sont informés de leur mode de conception. Néanmoins, dans l'association, moi, je vois des couples et des parents qui sont très préoccupés, justement, sur la manière d'informer l'enfant de son mode de conception. Est-ce que la loi a vocation à tout réglementer? Alors, il avait été question en France, notamment, de préciser, il y avait une suggestion qui avait été faite notamment par les partisans de la levée de l'anonymat, d'inscrire sur notre carte d'identité qu'on avait été issu d'un don de gamètes. Mais si on commence à marquer qu'on a été issu d'un don de gamètes, on va marquer notre religion, on va marquer notre orientation sexuelle. Pourquoi est-ce qu'on se limiterait à ça? Et si jamais on veut justement mettre le pied à l'étrier pour que les parents puissent informer l'enfant de son mode de conception, pourquoi est-ce qu'on n'obligerait pas les parents à dire, si jamais ils ont une relation adultère, qu'il faudrait aussi informer leur enfant? Pourquoi est-ce que ça nous concernerait uniquement les personnes conçues par don ? La question du secret, elle touche toutes les familles. Aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas utile de réglementer pour essayer de forcer ses parents, à informer les enfants de leur mode de conception. La majorité ont déjà très bien compris. Et en plus, ils sont guidés. Une psychologue a pu en parler. On a déjà, pas la recette magique, mais on sait que informer l'enfant tôt de son mode de conception, dans des circonstances sereines, c'est-à-dire qu'il y a un relatif équilibre familial, il faut que l'annonce soit concertée, que les deux soient d'accord. Ce qui a bloqué des fois l'annonce du mode de conception, c'est que vous aviez seulement un des deux parents qui souhaitait informer l'enfant du mode de conception. Donc il y a un travail à faire, il y a une élaboration à faire. On ne peut pas précipiter la révélation du mode de conception à l'enfant. C'est-à-dire que du côté des parents, il doit y avoir aussi un cheminement. Si les parents vivent sereinement ce mode de conception, c'est-à-dire qu'ils ont fait le deuil de l'enfant biologique, à ce moment-là, ils vont être à l'aise pour annoncer à l'enfant son mode de conception. Je crois que le droit n'a pas vocation à s'immiscer absolument partout. Et derrière cette technique, vous avez aussi des considérations d'ordre d'intérêt général. Vous avez entendu l'exposé du docteur Rose. Je tiens à vous dire que en France, on est un pays de tradition civiliste, qu'on a une certaine idée de l'intérêt général, et que là, l'autre intervention est aussi un exemplaire de ce qui se passe dans un pays où règne la common law et le primat de l'individu. Personnellement, moi, je suis prêt justement à sacrifier certaines choses au nom de l'intérêt général, plutôt que de regarder mon propre intérêt personnel. Ce qu'on a vu là, ces situations justement très très compliquées, quand elle nous a parlé notamment de cette personne conçue par don en Australie et qui disait rechercher son père. Mais je me suis décomposé sur place. Je me suis dit, est-ce que cette personne n'a pas déjà un père ? Ça veut dire que si elle avait besoin de voir ce géniteur, est-ce que finalement le père n'était pas défaillant? Il faudrait connaître tous les tenants et les aboutissants. Et ça relève du travail des psychologues, que d'essayer de faire la part des choses entre ce qui est imputable immédiatement à la question de l'anonymat et ce qui n'est pas imputable à la question de l'anonymat. Je vais finir là-dessus.
Voilà. Christophe, sorry, I have to interrupt.
Excusez-moi, je dois vous interrompre, Christophe, car café nous attend dehors. Et je voudrais faire une pause maintenant, car cela fait une demi-heure que l'on attend que nous allions prendre notre café. Ensuite, nous reviendrons dans cette salle, donc pause de 10 minutes. Christophe, Oui, vous reviendrez après la pause café et vous pourrez avoir la parole, monsieur. Les maths et le génie n'ont rien à voir ensemble. Je suis un ignorant en mathématiques, mais mon fils aime la mathématique. Donc, c'est les mathématiques et la génétique qui n'ont rien à voir ensemble. Et parfois, je dis à mon fils, eh bien, tu n'es pas mon fils.
So please take the seat that we can continue. In the break, I had a debate with some.
Au cours de la pause, j'ai pu m'entretenir avec certains d'entre vous. Nous sommes le comité des questions sociales.
Alors, il s'agit d'un thème, où il s'agit donc de réfléchir par rapport à des pensions de retraite, mais aussi ou des aides, ainsi que le droit d'hérédité. Un homme, s'il vient avec ses 19 enfants, voilà, et il ne pourra plus aller en Ouzbékistan, voilà. Bon, si c'est pour le travail qu'il y est, je veux bien, mais bref. Si on lève l'anonymat, je disais à Martine que je connais un chanteur de renom allemand et voilà, celle qui l'administre lui a demandé donc un don de sperme. Elle pensait que voilà, la fille serait donc une soprane à l'opéra. Mais il ne vit plus en Allemagne, car depuis 4 ans, il est donc devant les tribunaux. Cette femme lui a tout demandé après. Elle donc de verser une pension pour les enfants elle-même, et il a déménagé en Belgique.
And he asked that he can see.
Voilà, il demande le droit de rendre visite à son enfant, mais elle a eu gain de cause en Allemagne devant le tribunal allemand, et c'est impossible pour lui. Mais le tribunal belge lui a donné raison. Vous avez donc le droit de voir votre enfant. C'est un cas de figure assez intéressant en Europe. Enfin bref, revenons à nos moutons. C'était vous qui souhaitiez reprendre? Allez-y.
Bon, este assunto, penso que nisso todos.
Je crois que nous sommes tous d'accord pour reconnaître l'intérêt de cette question et dire combien cette question est motivante, passionnante, mais aussi combien elle est délicate. On ne saurait engager la question le débat sur la question de l'anonymat avec des idées préconçues en faisant preuve de certains fondamentalismes et certains sans connaître en profondeur ce dont on parle. Et nous avons eu ici deux excellentes contributions de Christophe et de Madame Ross qui étaient tout à fait différentes et qui font état de deux opinions, de façons de voir qui sont l'une et l'autre valables et qui sont l'une et l'autre très importantes pour alimenter la réflexion des députés afin que ceux-ci puissent produire un rapport équilibré. Nous avons entendu ici des témoignages poignants, mais c'est aux députés et à une autorité comme le Conseil national de la procréation médicalement assistée, il revient à cela, disais-je, d'avoir un certain recul pour pouvoir décider de façon transparente, bien sûr, mais de façon équilibrée et adéquate. Nombre de questions ont été soulevées. Et je voudrais simplement vous dire que la législation portugaise qui était en vigueur jusqu'à l'arrêt de la Cour constitutionnelle était d'une certaine façon équilibrée. Certaines des questions qui ont été posées ici certains problèmes plutôt ne se posaient pas à l'époque dans la loi portugaise, notamment la question des maladies génétiques qui peuvent être transmissibles. La loi portugaise permettait de connaître l'identité génétique du donneur. Ce qu'elle ne permettait pas de connaître, c'était l'identité civile. Ce qu'a modifié la Cour constitutionnelle, c'était de donner maintenant l'accès à l'identité civile. Il était également possible, grâce à la législation portugaise, de lever le secret ou l'anonymat par le biais d'une intervention devant le tribunal où l'on démontrait qu'il y avait des raisons pondéreuses pour la levée de cet anonymat. Cela n'a jamais eu lieu au Portugal, mais notre législation est assez récente puisqu'elle date de 2006. Pour ce qui est de la situation portugaise, ce qui est en cause à l'heure actuelle n'est pas de savoir si l'anonymat sera maintenu ou pas. La Cour constitutionnelle a été claire à cet égard. Ce qui est en cause, c'est de savoir comment nous allons opérer la transition d'un paradigme vers l'autre et comment, à l'avenir, nous allons pouvoir accès à cette identité. Et c'est ce sur quoi le Parlement portugais doit désormais se prononcer, légiférer, réglementer. Qui peut avoir accès à cette information? Seulement la personne issue du don? Est-ce que cette personne peut diffuser publiquement cette information? À quel âge peut-elle l'obtenir? Ce sont des questions qui ont été posées et nous en avons déjà débattu au sein du Conseil. Et à notre avis, ce n'est que lorsque la personne issue d'un don atteint la majorité qu'elle peut requérir cette information, c'est-à-dire au Portugal à l'âge de 18 ans. Il importe également de savoir quels sont les devoirs et les droits de la personne issue d'un don lorsqu'elle acquiert cette information, si elle peut la diffuser, si elle peut contacter le donneur, si elle peut contacter ou pas la famille du donneur. Il y a donc tout un ensemble de questions sur lesquelles doit trancher le législateur national, car pour pouvoir équilibrer l'ensemble des droits qui sont en débat ici, les droits de la personne issue d'un don, les droits du donneur, les droits des parents, il est nécessaire que l'on réglemente la façon dont la personne va accéder à cette information et ce qu'elle peut en faire. Je pense donc qu'il est indéniable qu'au Portugal, l'anonymat des donneurs n'existe plus. Le paradigme est changé. Mais maintenant, les donneurs et les couples qui recourent au don de gamètes le savent. Ils savent que l'anonymat n'existe plus. Donc, ils connaissent les nouvelles règles du jeu. Les donneurs et les parents qui souhaitent donner leur gamète ou sont devenus parents avant cette modification avait appliqué une autre règle du jeu. Donc ceux-là doivent faire l'objet d'une attention particulière de la part du Parlement. Et il convient de pondérer leurs droits et leurs obligations. Cette question est débattue au Portugal. Mais elle est par des spécialistes, par des experts, dans des bureaux, dans des cabinets, à l'université. Et mon souhait, c'est celui du Conseil, c'est que ce débat entre dans l'opinion publique, puisque nous parlons d'un changement de paradigme. Nous parlons donc d'un changement de mentalité. Et nous savons que la procréation médicalement assistée, surtout lorsqu'intervient le don de gamètes dans la société portugaise, est encore l'objet d'un certain secret, d'un certain tabou. Les gens n'aiment pas en parler et généralement, les parents ne révélaient pas à leurs enfants comment ils avaient été conçus et ne le disaient même pas à leurs proches. Et alors, ils ne songeaient même pas à en parler à leur entourage plus vaste ou à la société en général. Donc, c'est un changement de mentalité. La procréation médicalement assistée a néanmoins un rôle à jouer dans notre société et nous espérons que l'année prochaine, dans notre plan d'activité, nous puissions tenir un symposium public ouvert à la population en général et pas seulement aux spécialistes, à la population, aux universitaires, aux étudiants, pour que l'on puisse débattre et creuser toutes ces questions. Car lorsque nous abordons ces questions, nous ne devons pas le faire animé d'une émotion ou d'une passion superficielle ou qui nous emporte, mais nous devons le faire en connaissance de cause. Merci.
Thank you very much, Carla Maria.
Merci beaucoup, madame. Je voudrais vous informer, ne soyez pas que les autocars viennent à 18h30. Donc j'espère que nous pourrons travailler donc encore une heure de façon à terminer l'ordre du jour de l'après-midi. Et je peux vous dire, puisque je viens d'Autriche, que la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt en 2006-2007 que toute chose doit être vue du point de vue de l'enfant. Et un chanteur donc très connu a donc procréé, il a conçu et voilà. L'enfant donc n'avait pas le droit de contacter son fils et l'arrêt rendu était que si l'enfant souhaite voir son géniteur, eh bien tout le monde doit obtempérer et suivre le souhait de l'enfant. Alors peut-être qu'au Portugal vous avez besoin donc d'autre chose, dit le président. Miguel, vous avez la parole. Je vais parler en portugais.
Devagar para facilitar.
Lentement. Et j'essaierai de répondre à certaines des questions qui m'ont été posées. Pour moi, l'essentiel, ce ne sont pas nos options ou nos émotions personnelles. La question essentielle, comme le disait Madame Carla Rodriguez, c'est la connaissance. Et c'est-à-dire connaître, savoir ce que les enfants, les adolescents, les jeunes adultes qui sont issus d'un don de gamètes souhaitent. Et cela implique que l'on fasse des études que personne n'a voulu faire au Portugal. En France, je ne sais pas si les 70 000 citoyens issus d'un don de gamètes, si des études ont porté sur ces 70 000 personnes. Ce que moi je pense personnellement, ou vous ou un autre, ça n'a pas vraiment d'importance et je ne veux pas vexer qui que ce soit. Ce qui est important, c'est que ce que pensent les enfants, les personnes issues d'un don de gamètes. Et faute d'études, on ne le saura pas. Et je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait ces études, parce que l'on n'a pas voulu ou peut-être pour une autre raison. Au Portugal, l'autorité sur la médecine génétique a pris 11 ans pour faire ses études. Elle ne les a pas fait parce qu'elle ne le voulait pas. Et néanmoins, le noyau dur demeure et restera 16 ans. 16 ans, ce sont les mêmes personnes qui ont de très grands intérêts dans les centres privés liés à la PMA. C'est très grave et je l'avais d'ailleurs déjà dit. On m'a demandé ce que je pense de l'application rétrospective. Non, bien évidemment. Qui a donné du sperme ou des ovules avant avril 2018 l'a fait sous couvert d'anonymat. Et c'est un droit qui doit être respecté, contrairement à ce qui s'est passé dans l'État australien de Victoria où on a utilisé la rétroactivité. Je ne suis pas d'accord et cette question ne se pose pas au Portugal. Il est évident qu'au Portugal, on fait un dépistage des donneurs, c'est-à-dire qu'en théorie, et tous sont des donneurs sains, mais il y a des maladies que nous ne connaissons pas aujourd'hui et que nous découvrirons demain ou dans un mois ou dans un an. Donc personne ne peut jamais avoir la garantie absolue que le donneur est un donneur sain. Il est sain aujourd'hui en fonction de l'état de nos connaissances scientifiques aujourd'hui. Voilà qui méritait d'être dit. L'option de le dire aux enfants ou pas, toutes les études qui ont été menées en Angleterre par le Conseil national de la bioéthique ou dans le nord de l'Europe où l'on est allé savoir interroger les personnes concernées, bien la plupart de ces enfants veulent avoir le droit de savoir. Mais le droit, cela ne signifie pas le devoir de savoir. Ils revendiquent le droit d'exercer ce pouvoir s'ils le souhaitent. Alors, lorsque l'on s'interroge pour savoir à quel âge on doit dire à un enfant qu'il est issu d'un don de gamètes, la plupart des études répondent le plus tôt possible. La plupart des études le disent clairement, mais il n'y a pas un âge qui soit un âge magique. 18 ans, c'est peut-être très tôt, c'est peut-être trop tard. 16 ans, la même chose. Du point de vue bioéthique, nous disons toujours que l'âge en tant que tel n'est pas un critère absolu. Et nous sommes en train ici de traiter d'une question éthique. Deux jeunes gens de 16 ans ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas le même développement intellectuel, les mêmes perceptions, la même maturité. Donc, je ne sais pas si le législateur voudra imposer une norme ou une loi qui dira 7 à 10, 16 ans, 17 ans, 18 ans ou même 14 ans. Pour répondre à Madame la députée Stella Kyriatis, la carte que j'ai présentée concernait que les pays de l'Union européenne. Malheureusement, je m'en excuse et non pas tous les 47 membres du Conseil de l'Europe. Je sais bien que le Conseil de l'Europe n'a qu'à 47 membres, alors que l'Union européenne en a 27, 28, on verra. Une dernière remarque, si je vous ai bien compris, vous qui êtes à ma droite, c'est peut-être moi qui ai mal compris, que vous auriez dit que statistiquement, les enfants issus d'un don de gamètes ont moins de possibilités ou de probabilités d'avoir un cancer génétique. Est-ce que je vous ai bien compris, monsieur? Si je vous ai mal compris, excusez-moi. Si je vous ai bien compris, je n'ai jamais lu aucune étude sur cette question et je vous remercierai de me les fournir. Merci.
Okay, and finally.
Merci. Enfin, Madame Ross. Elle est partie, Madame Ross. Alors, Petra, pour les remarques de conclusion. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à tous les experts qui ont participé à cette table ronde. J'ai rarement vu un débat au Conseil de l'Europe qui dure presque 3 heures. Donc cela signifie que ce sujet est véritablement très important, très complexe, très difficile. J'ai beaucoup lu sur ce sujet. Normalement, lorsque vous lisez les journaux, vous voyez qu'ils optent pour une une position ou pour une autre parce qu'ils observent, ils interprètent, ou alors ils ont des idées préconçues en faveur de laquelle ils avancent des arguments. Je crois que nous allons élaborer un rapport très complexe qui tiendra compte de tous les arguments et de tous les éléments qui ont été mentionnés ici. J'espère donc que je pourrai revenir devant vous, devant la commission, en décembre probablement, en ayant élaboré un rapport qui aille dans ce sens. Après ce que j'ai entendu, il sera difficile d'élaborer des conclusions qui suscitent le consensus. Mais notre approche sera celle des droits humains pour équilibrer les droits des enfants, des donneurs et des familles. Donc, c'est trois parties dont il faut tenir compte. Donc, je ne voudrais pas ici avancer de conclusion vu la complexité de la question, mais j'aimerais vous remercier de votre apport, de remercier mes collègues députés de votre concours, et j'espère que vous avez eu autant d'intérêt à ce débat que je n'en ai pris. Nous partons avec plus de questions que de réponses, mais j'espère que dans notre rapport, nous pourrons apporter quelques réponses. Merci. Enfin, en tant que président de cette commission, je voudrais remercier nos formidables experts. C'était tout à fait intéressant. Vos allocutions étaient passionnantes et elles ont engendré un débat très animé. Pour vous, Carla, je vous souhaite bonne chance. Vous aurez à remuer peut-être des montagnes, ce n'est pas facile. Enfin, je voudrais remercier Petra. Avec Petra, nous avons la garantie que cette commission est saisie de thématiques passionnantes et qui sont débattues avec tact et du plus profond de notre âme. Et tous nos experts ont été très touchés par ce qui a été dit ici. Christophe, vous qui êtes un jeune homme, je voudrais vous dire combien je respecte votre position et de l'intervention qui est la vôtre. Et il est rare d'entendre quelqu'un parler aussi franchement et ouvertement que vous. Et donc, j'ai beaucoup d'estime pour vous, pour votre association. Et à vous aussi, je souhaite bonne chance. Et j'espère qu'avec la résolution qui émanera de nos travaux, nous pourrons appuyer les vôtres. Mes chers collègues, nous en venons maintenant à l'autre partie de la vie, c'est-à-dire l'autre extrémité de la vie, c'est les soins palliatifs. Je vous remercie, mais je dois aller de l'avant. Et je me retourne vers Ronan et je lui demande, êtes-vous... Pouvez-vous faire une introduction avec 5 phrases seulement? Oui. Alors, vous en recevez 6. Essayez, parce que nous devons ensuite voter paragraphe par paragraphe.
Thank you, Chair. Well, I'd like to add...
Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je souhaiterais féliciter tous les participants au débat précédent, et c'est vrai que souvent, lorsque ça dure, on perd l'intérêt des personnes. Donc, introduction brève. Alors, suite aux différentes réunions que nous avons eues, on nous a demandé de couvrir beaucoup, beaucoup de domaines, et j'espère que, voilà, je les ai couverts dans mon rapport dont vous êtes saisis. On nous a demandé de considérer donc les besoins particuliers des enfants en situation de soins palliatifs. Bon, nous parlons donc des questions centrales Le fait d'endormir pour des raisons palliatives. Et puis il y a le volet genre qui est ajouté. Et puis le rôle des aidants. Les aidants informels. Et c'est vrai que le besoin de guérison empêche peut-être de bien comprendre les besoins des soins palliatifs. Donc si on passe donc d'une façon de voir donc de la guérison à quelqu'un qui à la prise en charge, eh bien on pourrait mieux comprendre les soins palliatifs comme étant complètement intégrés dans le système de soins de santé. Voilà, on est trop axé sur la guérison et on omet donc de prendre en ligne de compte les besoins des personnes en situation de soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est fondamental à la dignité humaine. C'est d'être une composante du droit humain à la santé. Il faut encourager les États membres à considérer cette prestation de soins palliatifs comme étant complémentaire aux droits humains dans le système sanitaire de leur pays. Et bien sûr qu'il y a des il faut donc assurer que au-delà des clivages socio-économiques et géographiques, il faut donc apporter ces soins palliatifs de manière holistique, qu'il y ait donc réponse aux besoins sociaux, spirituels et physiques de la personne. Que ce soit donc la formation des professionnels, il faut qu'ils comprennent donc des thérapies opiacées nécessaires donc pour la gestion de la douleur, ou encore formation quant aux besoins de soins palliatifs. Et souvent il s'agit de courage, il faut en parler tôt pour traiter les personnes, pas seulement qui sont accablées d'un mal terminal, mais de maladies donc chroniques qui peuvent limiter leur durée de vie. Il faut donc former les patients, les familles, mais aussi les professionnels de la santé qui hésitent peut-être parfois à parler de ce sujet des soins palliatifs, et le faire ces soins palliatifs en même temps que l'on traite les maladies. C'est très important pour qu'on ait une intervention précoce en soins palliatifs. Reconnaître donc que des soins de palliatifs qualitatifs nous permet de faire des économies en coûts au long terme. Donc travailler en étroite collaboration avec le secteur des bénévoles qui ont tellement contribué à développer les bonnes pratiques en matière palliative, et enfin s'occuper donc des personnes, donc des aidants informels. Donc les personnes doivent être soutenues. Il faut aussi qu'ils soient aidés à s'adapter, parce qu'ils sont quand même en train d'aider quelqu'un qui souffre beaucoup et qui est peut-être parent. Voilà, c'était la sixième phrase. Oui, je voulais vous demander, vous avez promis cinq phrases, n'est-ce pas? Et je voulais savoir si on est là pour la nuit. Oui, mais il faut compter les points. Ronan, je voudrais vous dire que nous n'avons pas de débat général. Il faut tout simplement mettre un point final à votre rapport. Rapport donc qui sera soumis à la commission permanente à Helsinki bientôt. Voilà, c'est pour ça qu'il faut terminer. Chers collègues, si personne ne demande la parole, je voudrais directement passer au vote de ce. Et paragraphe numéro 1, abstention, voix contraire, ce n'est pas le cas. Paragraphe 2, c'est adopté. Paragraphe 3, réputé adopté à l'unanimité. Paragraphe 4, unanimement adopté. Le micro du rapporteur est encore allumé. Veuillez le lui signaler, s'il vous plaît. Voilà. 5. Réputé adopté. 6. Pas d'intervention. C'est adopté à l'unanimité. Paragraphe 7. Merci. Réputé adopté à l'unanimité. 7.1. Pas d'intervention. Adopté à l'unanimité. 7-2. Merci. Réputé. Adopté à l'unanimité. 7-3. Même chose. 7-3-3-3-1. Adopté. 7-3-2. Pas d'intervention. Parfait. Adopté. Passons au 7.4. Pas d'intervention. Adopté. 7-4-1. Pas d'intervention. Répété. Adopté. 7-4-2. Pas d'objection. Adopté. 7.5. Adopté. 7.5.1. 7.5.2. Pas d'intervention. Adopté à l'unanimité. 7.6. Pas d'intervention. Adopté. 7.7. Pas d'intervention. C'est donc adopté. 7.8. Adopté. 7.9. Pas d'intervention, réputé adopté. Et enfin, le paragraphe 8, adopté. Parfait. Nous devons maintenant voter sur ce rapport dans son ensemble. Je vous demande qui est pour le rapport Ronan-Mullen sur les soins palliatifs en Europe. Y a-t-il quelqu'un qui est contre? Vous êtes contre? Non. Qui est contre? Abstention. Eh bien, félicitations, Ronan. Dieu est avec vous. C'est un match irlandais ou c'est quoi? Oui, petite observation. Vous voulez dire quelque chose au sujet de ce gentilhomme? Non, non, au sujet du rapport. Je voudrais féliciter mon collègue, sénateur Ronan Mullen, sur ce rapport d'excellente facture. Et bien sûr, je travaille avec lui et je sais qu'il travaille là-dessus depuis très très longtemps. Il s'est beaucoup investi et voilà, je suis fière de ce qu'il a fait. Et c'est un rapport qui tombe à point nommé. Est-ce que nous avons la possibilité de poser une question? Est-ce que c'est permis les questions? Réponse. Une question à Ronan? Est-ce que je peux poser une question? Voilà. Si j'avais l'opportunité de poser une question, la question que je voudrais lui poser, c'est les opiacés. On en a besoin pour traiter les personnes donc dans les soins palliatifs. Et pourtant, il y a des soucis de dépendance. On l'entend dans certains pays, tels que les États-Unis. Mais quand même, c'est licite en soins palliatifs. Donc, comment réconcilier ces deux choses? Est-ce qu'il en parle dans son rapport? Autrement, je veux tout simplement le féliciter très chaudement pour ce rapport.
Ok. Wait one minute. Stella, ask also.
Stella souhaite la parole également.
First of all, I wanted to...
Tout d'abord, je voudrais remercier M. Mullen qui a abordé un sujet aussi délicat de façon si pleine de tact et équilibrée. C'est pour cela que ça a été adopté à l'unanimité. Ce n'a pas été une mince affaire et je l'en félicite. Monsieur Chénard, on a eu besoin de 3 heures... pour le rapport précédent, et ici, on s'est vraiment dépêché. Tania nous dira, j'essayais d'attirer l'attention pour ajouter un mot. Je sais bien que ça a été adopté, mais je crois quand même qu'il est important d'avoir dans le projet de résolution quand même un renvoi, comme vous l'avez expliqué dans votre mémorandum, des enfants. Là où on parle, donc paragraphe 7, compte tenu de ce qui précède et en vue de renforcer les services de soins palliatifs et d'assurer l'accès à des soins palliatifs de qualité à tous ceux qui en ont besoin, au lieu d'écrire à tous ceux qui en ont besoin, aux enfants et adultes qui en ont besoin. Voilà, c'est important quand vous parlerez plus tard des services spécialisés. Donc, vous voulez parler pour Dorine?
Yes, here we go. thank you, Chair.
Yeah. Merci. Je suis pleinement d'accord avec ma collègue. D'ailleurs, je pensais que c'était présent, mais ça n'est pas présent dans le texte au début. En tout cas, Ronan, merci pour ce rapport. Bien joué. Et je suis heureuse de voir qu'il soit si équilibré. Deux petites choses. Nous avons quand même discuté auparavant de la question du financement des hospices de soins palliatifs. En tout cas, au Royaume-Uni, comme on le sait, pour ces établissements, l'argent ne suit pas le patient, comme c'est le cas autrement dans les cliniques et hôpitaux NHS. Donc voilà, ils gardent l'argent pour garder les hospices ouverts, les centres de soins palliatifs ouverts. Donc voilà, ils font un travail formidable, comme vous le savez, mais il y a quand même des fois où ils manquent d'argent, ces centres de soins palliatifs, parce que voilà, l'argent ne suit pas le patient. Donc voilà, ça c'est un aspect. Et un autre paragraphe, 46, c'est dans le rapport lui-même, hein, pas dans la résolution. 46, les besoins spirituels de la personne. Je voudrais plutôt, vous avez parlé des différentes confessions et dénominations. Moi, je préférerais foi et croyance. De quel paragraphe s'agit-il? 46 du rapport, page 12, version française. Deuxième ligne. Oui, donc, c'est dans le mémorandum explicatif. Oui, mais nous n'en sommes pas là, dit le président. J'ai dit à la fin qu'on le prend tel quel. Mais j'ai quand même un problème. Ronan, je pense, est d'accord avec la position de Stella qui a été appuyée par Doreen. Nous avons en fait déjà voté sur tous ces paragraphes. Donc si personne n'intervient maintenant pour s'opposer à ma proposition, je vous propose de voter du paragraphe 7 avec le nouveau libellé, si le rapporteur est d'accord. Êtes-vous, chers membres, en mesure d'accepter l'introduction du nouveau libellé? Il faut bien sûr agir selon le règlement. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Oui, ajouter le terme « enfant ». Deuxième ligne, troisième ligne du paragraphe 7. Enfin, dans la version anglaise, dans la version française, peut-être avant, au paragraphe 7. Voilà. Est-ce que vous avez vu ce film « Back to the Future » ? Voilà, on se penche maintenant sur les défauts. Non, il n'y a rien de faux. Voilà. Qui est en faveur du rapport amendé, tel qu'il vient d'être amendé à l'instant? Voilà, nous avons entendu pour tout ce qui concerne donc la partie explicative, l'exposé des motifs, l'amendement donc proposé par Doreen. Nous avons donc aussi un amendement qui a été adopté à l'unanimité. Félicitations. Alors voilà, je voudrais donc souligner les paroles de votre collègue, de Stella. J'étais particulièrement impressionnée pendant ces 6 derniers mois. Comment est-ce qu'un jeune homme puisse appréhender avec autant donc de délicatesse ce sujet si difficile que les soins palliatifs. Et voilà, la commission voudrait vous tirer son chapeau. Et c'est pour cela que le rapport est adopté à l'unanimité.
In Helsinki, everybody of you who is in the...
Donc, si vous êtes membre de la commission permanente à Helsinki, vous aurez la possibilité de refaire le vote et vous, de manière à ce que le rapport soit unanimement adopté. Merci, Stéphane. C'est à vous que je voudrais présenter mes remerciements, chers collègues, ainsi que le sénateur Joe O'Reilly, qui est aussi un ami, et le sénateur Doreen Massey, qui, comme beaucoup d'autres, Petra et beaucoup d'autres qui ne sont pas présents, qui ont beaucoup contribué pendant les délibérations. Et je vous dois beaucoup, vous m'avez beaucoup soutenu, présenté beaucoup de propositions, suggestions que j'étais heureux d'intégrer dans le corps du texte, y compris votre dernier commentaire, Doreen. Et bien sûr, j'aurais tort de ne pas remercier Aishkul et Helsgeri pour l'excellente collaboration. Et ça vous montre combien est précieuse l'aide du secrétariat de la commission. Joe, a fait un commentaire par rapport au rôle des opiacés. Je pense avoir été clair. C'est une question qui n'est pas encore complètement résolue, y compris dans les États membres du Conseil de l'Europe. Donc l'accès donc à ces antidouleurs pour les soins palliatifs. Il y a donc c'est quelque chose qui agit comme un frein sur les soins palliatif, il y a une sorte de phobie des opiacés dans certains pays et du coup on ne bénéficie pas nécessairement de l'impact positif d'opiacés pour ces patients palliatifs. Alors, et bien sûr, ça n'a rien à voir avec la lutte contre l'usage non palliatif et non médical de ces opiacés. Donc aux États-Unis où on utilise donc les opiacés, il est clair qu'il faut les utiliser à bon escient. Des progrès sont réalisés dans ce domaine aux États-Unis quant à l'usage des opiacés dans les soins palliatifs. Merci beaucoup, chers collègues, pour votre soutien. Merci à vous, Ronan, John. Avant de... Alors, la dépendance donc par rapport à certains médicaments. En tant que présidente de cette commission, j'étais généreux lors de la réunion du bureau et j'avais dit qu'on n'a pas besoin d'un rapport sur la drogue parce que c'est, par le passé, c'était le cas toujours que notre commission était responsable de tout ce qui concernait ces questions. Alors, il a fallu bien sûr rendre un avis. Je sais que c'était peut-être un peu généreux, mais dans la tradition de notre commission des affaires sociales et santé, nous, on ne veut pas revenir à l'ère des rapports sur la drogue et l'ordre public, etc. Et c'est pour cela qu'il y a une motion là-dessus. Ronan, est d'ailleurs candidat pour ce rapport. Mais voilà, quiconque membre de la commission pourra l'être. Déjà 18h10, je continue. Sous-commission sur la santé publique et le développement durable, qui a déjà travaillé ce matin. Et d'ailleurs, Martine Mergen va nous présenter son bref rapport.
Président, merci Monsieur le Président. Je suppose que tous les présents étaient présents ce matin lors de la réunion de la sous-commission. Est-ce que tel est le cas? Est-ce que tous les présents étaient là ce matin? Alors, je vais me tenir très, très brièvement. Nous avons donc fait les approbations nécessaires et nous avons surtout assuré le suivi de l'échange de vues sur le concept d'échange de Rhin et nous avons adopté le projet de déclaration présenté ce matin et nous voulons le rendre à la commission sociale pour le suivi. Voilà, c'est en fait tout ce que je voulais dire.
Merci, Martine.
Merci. Alors, sommes-nous d'accord? Projet de déclaration sur les reins, donc qui émane de la sous-commission de la santé publique et du développement durable. Je ne vois pas de voix contraire. Très bien, nous sommes d'accord. La déclaration est ainsi adoptée. Dorine, sous-commission sur l'enfance. Donc, c'était donc votre réunion de ce matin.
Oh, thank you. Wonderful, wonderful, thank you. Thank you, Stéphane.
Merci, Stéphane. Nous avons tenu notre réunion ce matin, de réunion de sous-commission sur l'enfance. Je remercie les membres pour leur dévouement et leur zèle pour travailler donc à la question de développement des enfants. Il y a eu trois sujets à l'ordre du jour. D'abord, activité dans les différents pays, quels sont les sujets brûlants actuels. On nous a parlé donc de ce qui se fait dans le domaine de la santé mentale et aussi les brutalités. On a parlé aussi des enfants migrants et de l'importance d'avoir une déclaration de la part de la sous-commission, mais on ne le peut pas car c'est à la commission principale, commission mère, de faire ce qui dont il s'agit donc de faire une déclaration. Bon, je vois que vous ne réagissez pas, donc ça doit être juste. Oui, donc suite au séminaire de Londres sur la santé mentale des enfants et des adolescents, nous avons tenu des tables rondes avec des ministres, donc il s'agit donc de maintenir la dynamique et qu'on continue ce travail. Et le 17-18 octobre, il y a une réunion conjointe de la sous-commission sur l'éducation et le sport à Tbilissi, Géorgie. Ça traitera de protection de l'enfance contre la violence, ainsi que l'exploitation sexuelle des enfants dans le sport. Donc, pendant deux jours, il y aura des présentations. Ensuite, il y aura un atelier qui devrait produire une déclaration pour interdire la violence contre les enfants dans le contexte du sport. Je pense que ça devrait être quelque chose de très intéressant. Enfin, j'ai aussi fait état du fait que j'ai parlé à des collègues de l'implication de jeunes au sein du Conseil de l'Europe. Et les collègues ont été enthousiastes. En effet, la présidente Liliane Pasquier de l'Assemblée parlementaire a accepté de parler à un petit groupe de personnes pour voir de quelle façon est-ce que l'on pourrait assurer l'implication de jeunes notamment auprès de la division des droits des enfants et d'autres. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes. Martine, vous aussi, vous souhaitez donc participer à la réunion avec Liliane Pasquier, la présidente de l'Assemblée parlementaire. Donc voilà, il y a deux volontaires et les autres, voilà.
Now we have the quorum and we have to make two decisions.
Nous avons le quorum. Il y a deux décisions à prendre. La première, nommer un rapporteur pour le rapporteur. Alors, tourisme sur la greffe d'organes. C'est en fait Madame Pasquier qui nous a saisis pour décision. Je sais que nous avons une collègue qui, Stella, est-ce que nous sommes prêts à accepter sa nomination? Y a-t-il un autre ou une autre candidate? Si ce n'est pas le cas, Stella Kyriakides est nommée rapporteur tourisme de greffe d'organes. Très bien. Monsieur Pateyas, est-il encore présent? C'est vrai. Il devait aussi faire une déclaration de non-conflit d'intérêts. Il n'y a pas, en fait, de modification dans les sous-commissions. Mais on a un projet de motion de résolution. Martine Merken, vous avez à nouveau la parole. Je vous livre quand même quelques explications. Cette motion a suscité beaucoup de réunions. On a rencontré beaucoup de représentants de Turquie, de la société civile, avec le gouvernement, les experts. À la dernière réunion, je vous avais promis que c'était la fin des rencontres officieuses, afin que l'on puisse quand même parvenir à une bonne motion de rapport, et je vais vous demander donc de nous présenter cette motion, Martine.
Monsieur le Président, en fait, Monsieur Chanard l'a déjà dit, on a eu un grand nombre de réunions formelles, puis deux réunions informelles à ce sujet, et finalement, je pense que nous nous sommes tous rendus compte que ceci ne concerne spécifiquement le district de Moula en Turquie, mais cela concerne aussi sûrement d'autres régions dans nos pays. Alors, il vaut mieux formaliser l'approche en faisant en proposant une résolution que je vais vous expliquer brièvement. Donc, il y a 5 points, je pense que vous l'avez sous la main. Donc, pour garantir des conditions de vie décentes aux générations actuelles, mais surtout futures, il importe de veiller à la durabilité des processus écologiques et des services écosystémiques essentiels que procure la nature. Donc, il y a l'objectif de développement durable numéro 15 de l'ONU, qui nous invite à assurer la préservation, restauration et l'exploitation durable des systèmes d'eau douce, terrestre et connexe. Or, nous sommes constamment sous pression pour rechercher la performance dans un environnement concurrentiel mondial. Il arrive que des réserves naturelles qui étaient auparavant protégées soient rouvertes aux activités économiques et commerciales, donnant lieu à des conflits entre les organismes de protection de l'environnement et en fait notre intérêt à tous et pour les générations futures et les acteurs commerciaux. Le projet de modification de l'occupation des sols suscite actuellement une inquiétude croissante donc en Turquie, dans le district de Moula. D'après les organisations de la société civile, ce projet ouvrira une partie essentielle des réserves naturelles aux activités de construction et elles affirment qu'aucune consultation publique n'a eu lieu. Cette situation est regrettable, elle n'est malheureusement pas réservée à la Turquie, et elle nécessite la tenue d'un débat plus vaste et la prise de mesures urgentes. Comment pouvons-nous concilier la protection de l'environnement et le respect du droit des générations futures, un environnement sain, et la compétitivité des économies de marché d'autre part. Donc il s'agit de trouver un équilibre au cas par cas. Comment peut-on tenir compte des besoins de la population locale sans étouffer le processus économique? Et comment utiliser les principes internationaux à l'appui des processus décisionnels dans ce domaine? Et le dernier point, le développement durable est une condition préalable à la jouissance des droits de l'homme, l'accès à l'information, la participation au processus décisionnel et l'accès à la justice sont indispensables et peuvent aider à trouver des solutions justes et viables. L'Assemblée devrait formuler des recommandations en vue de garantir une utilisation des sols à la fois transparente, inclusive et responsable. Voici donc l'avant-proposition de résolution et je propose donc d'en faire une vraie résolution et de travailler dessus dans le futur proche.
C'est
un droit humain que d'être impliqué dans ces processus décisionnels qui peuvent transformer la vie des gens qui vivent là, puisqu'il s'agit donc de l'environnement d'une dernière partie de la côte qui n'a pas encore été détruite par le tourisme ou l'industrialisation. La difficulté ici, qu'il n'y a pas de discussion avec la société civile, ni les ONG, ni personne. En plus, ce qui est prévu est contraire à la Convention de Barcelone. C'est donc une des raisons qui motive ce projet de recommandation. Il y a eu l'aval de la partie turque. Ils comprennent nos inquiétudes. Et ça n'a pas été décidé à la légère. Nous avons débattu pendant des heures et des heures avec des experts, des représentants de la société civile. Alors voilà, est-ce que nous pouvons mettre sur la table cette motion et donner le coup d'envoi? C'est un bon signal du Conseil de l'Europe vers les ONG que, voilà, on les entend. Ils sont sous pression. Très bien. Nous écrirons dans le procès-verbal qu'il en a été décidé à l'unanimité. Voilà, c'est la fin de cette longue journée de travail. Je souhaite remercier les membres et toutes les petites mains qui nous ont aidés, à commencer par le secrétariat. Je remercie les gens à l'étage pour leur excellent service, les interprètes. Merci, Monsieur le Président. Je vous rappelle que demain, ce serait formidable si vous pouviez venir au cocktail offert dans le centre nord-sud, afin que moi-même et Tania ne soient pas complètement seules. Madame Timmerman a fait une si belle proposition de visiter le premier vaisseau qui n'a pas pollué la mer. Vous savez que il y a une grande bataille dans le nord de l'Allemagne quant aux bateaux de croisière. Moi, je suis prête à aller avec Madame Timmerman, mais peut-être que 3, ce n'est pas un bon chiffre. Bon, la réception au centre nord-sud, c'est très important. Donc, si vous avez la moindre possibilité de venir au centre du nord-sud, qui quand même fait partie du Conseil de l'Europe et ses structures, donc je vous y encourage chaudement. Les autocars vont nous mener à Qashqai, un endroit formidable. On va passer Estoril. Si vous aimez la Formule 1, vous savez donc ce que c'est l'Estoril. Et vous n'oublierez jamais Cache-Cache. Bonne soirée en tout cas. Et j'espère que vous venez tous donner suite à l'invitation qui est faite par le maire de Cache-Cache.